de faire une introduction, puisque je suis en charge de l'introduction et de cette soirée en un quart d'heure, 15 à 20 minutes. J'ai pris ma montre là, je m'arrêterai de façon à ce temps-là. Donc l'introduction, en fait, je vais vous faire une introduction et un exposé qui n'est pas du tout chimique, parce que ça me changera d'abord. Et puis, derrière moi, il y aura... ça permettra de peut-être mieux introduire l'intervenant Luc Suré, et puis Jacques Barbier fera la partie plus technique, Valagro, et Anne-Marie finira de nous achever par la finance. Bon, alors la chimie verte, c'est quoi? Alors, j'ai fait des diapositives qui sont assez compliquées, mais il suffit de lire simplement ce qui est souligné, ça va plus vite. Donc la chimie verte, ça c'est la définition anglo-saxonne de la chimie verte, hein, donc qui a été proposée par Paul Anastase et John Warner, qui sont les pères de la chimie verte américaine, de l'Institut de chimie verte américaine, qui a été créé dans les années, début des années 90, plutôt fin des années 90. Le terme chimie verte traduit le concept de chimie pour un développement durable, autrement dit, une chimie qui veille à l'équilibre économique, social, environnemental du milieu dans lequel elle s'insère. C'est tout ce qu'il faut retenir. Parce qu'après, vous avez les 12 principes de la chimie verte qui sont déclinés dessous, c'est-à-dire que toute la chimie verte comprend tous les domaines de la chimie. Ce n'est pas uniquement une chimie basée sur le renouvelable, c'est-à-dire sur le carbone renouvelable, sur le végétal et l'animal. C'est la chimie dans son ensemble. Et il y a souvent confusion dans les esprits, quand on parle de chimie verte, les gens pensent tout de suite à une chimie faite à partir de végétal ou d'animal. Ça n'est pas vrai. Ça concerne tous les domaines de la chimie. Et dans ces 12 principes, il y en a un qui est le 7e, qui concerne l'utilisation de matières premières renouvelables pour la chimie verte. Tous les autres sont destinés aux économies d'atomes, aux économies d'énergie, à la conception de substances non polluantes, au respect de l'environnement et aux impacts sociétaux de l'utilisation de la chimie. Hein? Donc première définition qui est importante. Bon, quand on a défini ça, aujourd'hui, on va se préoccuper de la chimie verte, d'une chimie doublement verte, c'est-à-dire d'une chimie faite à partir de renouvelables. Alors, la chimie verte à Poitiers. Alors, j'ai pas résisté... Jacques Barbier sera peut-être d'accord avec moi, je pense, à faire un... Je ne vais pas faire toutes les lignes, parce que ça, c'est trop long, mais il faut voir que la chimie verte à Poitiers a quand même démarré, moi, je l'analyse comme ça, avec notre père, et on peut dire le père de la chimie à Poitiers, hein, Raymond Morel. Alors, j'ai mentionné 66, je ne sais plus si c'est 65 ou 66, hein, qui est arrivé professeur à l'Université de Poitiers en 66 sur la chaire de chimie organique, et qui a en fait bâti toute la chimie poitevine, même si certains de mes collègues ne sont pas d'accord. Et il y a eu une reconnaissance par le CNRS en 1974 de ce laboratoire qui ne s'appelait pas catalyse en chimie organique, qui s'appelait catalyse organique au départ. Et à partir de là, très rapidement, et Jacques Barbier et moi-même, on était les deux, je pense, à travailler sur cette thématique, on a travaillé dans les années fin 70-80 sur les huiles, sur le glycérol, sur les sucres et sur les CO2. Donc vous voyez que la chimie verte à Poitiers, c'est pas une histoire récente, c'est une longue histoire. Et depuis cette date, on avait déjà abordé dans les années 80 une chimie doublement verte. Et depuis cette date, on a organisé des symposiums, on a créé la plateforme Valagro, Jacques vous en parlera. La région a fait le programme Croissance verte. J'ai mis un certain nombre de jalons, la création de Valagro SEML, la création d'AGDR Biomat Pro que je co-dirigeais avec l'INRA, et ainsi de suite. Et on arrive, je pense que c'est lisible à la fin, oui. Donc on arrive maintenant avec une solide expérience qui n'a pas été encore reconnue nationalement pour certains aspects, une chimie doublement verte à partir de renouvelables et en respectant les principes de la chimie verte. Voilà ce qu'est la chimie verte qu'on pratique. On pratique toute la chimie verte, mais la chimie verte qui va nous occuper ce soir. Alors, maintenant, parlons biomasse. Donc, on fait de la chimie doublement verte à partir de biomasse. La biomasse, selon l'Union européenne, c'est ce qui est écrit en haut et à gauche, la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. C'est notre gisement de matières premières pour faire une chimie verte à partir de renouvelables. Tout ça, c'est renouvelable. Ce n'est pas uniquement le végétal et l'animal. C'est tous les coproduits qui peuvent résulter des activités humaines ou des activités industrielles ou économiques. Il faut bien avoir ça en tête parce qu'on est plutôt, maintenant, je pense qu'on en parlera, dans une économie de recyclage qu'en une économie de l'utilisation de matières... C'est pas le mien. Je sais pas. Qu'une économie basée uniquement sur une matière première végétale ou animale renouvelable. Alors vous avez trois grands, si on s'adresse au végétal, vous avez trois grands domaines, trois grandes matières premières, la biomasse qu'on appelle lignocellulosique, les bois, les pailles, les cultures dédiées, la biomasse alcooligène, qui est la betterave et le blé et le maïs, et la biomasse oléagineuse, qui, que vous connaissez, le golza, le soja, le tournesol. Et vous avez dans le petit fromage à droite, là-bas, la quantité de chaque composant de, de matière première végétale. Et vous voyez que dans le... Ça, c'est la production mondiale. Hein, c'est une estimation de la répartition mondiale de gisements de biomasse renouvelable. Vous voyez que ce qu'on appelle les huiles, tout ce qui est huile, ça ne représente que 5%. Hein, alors que toute la matière lignocellulosique, c'est la matière prépondérante. Vous avez 20% de lignine, 30% d'hémicellulose et 45% de cellulose. Donc, le gisement le plus important au monde pour faire de la... De ce que vous voulez des produits et des matériaux, ce sont les lignocelluloses. Et vous avez une estimation, c'est à 10 ou 20% près, mais la production mondiale de biomasse, selon la photosynthèse, est 180 milliards de tonnes par an. Ce chiffre est important parce qu'on peut le mettre en relation avec la dépense énergétique pétrolière ou charbon ou gaz, et c'est important. Bon. Continuons, parlons biomasse. Donc, les gisements sont simples. Il y a 6 grands types de ressources. Bon, je les ai répertoriés différemment, mais vous retrouvez les choses. Donc, c'est simple, mais c'est aussi compliqué, puisque vous avez 8 grands types de filières de valorisation et de marché. Ce qu'on appelle, le premier, ce qu'on appelle les usages primaires non énergétiques, qui comprend les fertilisants organiques. Bon, je pense que Luc en parlera peut-être après. L'alimentation, j'aurais dû le mettre en un, d'ailleurs. Les matériaux renouvelables traditionnels, le bois, les assimilés, les néo-biomatériaux, c'est-à-dire les bioplastiques, ce qu'on appelle les bioplastiques, les composites fibreux. La chimie du végétal, c'est celle qui nous préoccupe quand on veut faire de nouveaux produits et de nouveaux matériaux. Donc voilà pour les utilisations non énergétiques. Et les utilisations énergétiques destructives qui vont conduire à formation de gaz à effet de serre sont les biocarburants G1, G2, G3. Au stade où on en est, on va bien faire du G4 bientôt. 7, la biochaleur, biogaz et gaz pauvre, ça c'est important, et la bioélectricité co-générée, bon, qui est en relation avec le secteur situ. Bon, voilà, en face de la biomasse, on peut mettre les usages, donc les 8 usages suivants. Alors, continuons à être concrets et à parler de biomasse. Dans les estimations et dans les programmes qui sont proposés pour l'utilisation de la biomasse en direction de l'énergie, vous avez un paquet énergie-climat Union européenne-France où, en 2020, on doit mettre 10% d'énergie renouvelable dans les biocarburants. Ça fait 4 millions de tonnes d'équivalent pétrole par an de biocarburants. Ça représente grosso modo 2 millions d'hectares. Et en 2004, on est parti avec 0,4 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et en 2009, c'est-à-dire aujourd'hui, on est à 2 millions de tonnes équivalent pétrole de biocarburant. Donc, retenez le chiffre, 4 millions de tonnes équivalent pétrole en 2020 pour remplacer 10% de carburant utilisé actuellement. En biocombustible, c'est 20 millions de tonnes équivalent pétrole par an en 2020. Ça regroupe la chaleur, le biogaz, l'électricité, dont ce sont les prévisions que nous ont fait nos économistes. 70% d'origine forestière, ce qui représente 55 millions de tonnes par an de bois, alors qu'on en avait 10 millions de tonnes en 2009. Et ça n'inclut pas le développement de produits, c'est-à-dire de biomatériaux, ou de la chimie du végétal. Ça, c'est uniquement à destination énergétique. Bon, ça, je passe, c'est trop compliqué. Alors, si on fait un peu de rapport, enfin, disons, prévision d'utilisation de la biomasse pour des fins énergétiques. J'ai pris une carte de France parce que c'est quelque chose qui me titillait depuis un certain temps. Les gens parlent de millions d'hectares, de millions de tonnes équivalent à pétrole. Bon, 1 million d'hectares, c'est le carré, c'est la Picardie. C'est 1 million d'hectares. 2 millions d'hectares, c'est le carré noir qui est au centre, c'est pratiquement toute la Beauce. Et si on multiplie par le coefficient multiplicateur, parce que on ne cultive pas 2 millions d'hectares comme ça d'un seul tenant, hein. Il y a un taux d'utilisation des sols qui en France est à peu près de 0,3%. C'est-à-dire, quand on dit j'ai besoin de 2 millions d'hectares pour faire des biocarburants, c'est en fait 6 millions d'hectares dont on a besoin en moyenne en France. Hein. 6 millions d'hectares, donc c'est le pointillé. C'est ce pointillé-là, grosso modo. Et ça commence à faire un trou dans la géographie française, uniquement pour produire 2 millions de tonnes de biocarburant. Ça, c'est important. Il faut quand même avoir une notion des surfaces à cultiver quand on veut faire de l'énergie. Ça veut dire que, et ça représente 10% de notre consommation. Biocarburant. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais lui mettre après, bon, il y a ce qu'on appelle une fin de terre, FAIM, et peut-être là, j'espère pas la fin des terres, c'est-à-dire que si on projette ça à l'échelle du monde, dans le monde, il y a à peu près 13 milliards d'hectares de terres émergées, l'agriculture en a 38%, la forêt 30%, et le reste, c'est impropre ou difficilement mobilisable pour l'agriculture ou la forêt. C'est-à-dire qu'on a déjà 70% de 13 milliards d'hectares. Sur les 4-9 milliards d'hectares agricoles, il y en a 33% en culture annuelle et permanente, c'est-à-dire pour l'alimentation, une partie de l'alimentation, et 66% en prairies et pâturages permanents, et pour l'élevage en particulier. Donc, si on fait le bilan, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, aujourd'hui on a 6-5 milliards d'individus, en 2050 on devrait être à 9 milliards. Il faut quand même faire des réserves de terres agricoles pour nourrir la planète. Et si on se pose la question, existe-t-il des terres potentiellement cultivables non encore cultivées? La réponse est oui, dans la bouche de certains. En 2002, il était proposé qu'il y en avait 2,6 milliards d'hectares, ce qui est totalement faux, compte tenu des incertitudes et des zones à protéger, des zones sous emprise humaine, ainsi de suite, plus les développements urbanistiques. La réserve qui empiétera sur les prairies, les pâturages, est de 700 millions d'hectares. Et encore, c'est large. Et il ne faut pas en déduire que ces 700 millions d'hectares sont cultivables de la façon dont les Beucerons cultivent les terres. Les 700 millions d'hectares, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique du Sud, ils sont en Asie, pour certains. Donc, les process de culture n'ont rien à voir avec les processus de culture qu'on a en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà. Donc 700 millions d'hectares, on peut pas faire beaucoup d'énergie avec ça. Hein? Donc on peut faire, par contre, plutôt des bioproduits et des biomatériaux. Donc les bioressources ne sont pas illimitées. Il faut, je prends la dernière ligne, optimiser la gestion, la mobilisation et l'emploi des bioressources. Et il faut bien se poser la question de savoir quel équilibre on va avoir entre l'énergie et la chimie, ou du moins la fabrication de produits à partir du carbone renouvelable, et l'alimentaire pour nourrir la planète. Alors, je pense que je peux m'arrêter là, parce qu'après j'avais décidé de vous donner. Je peux vous donner un exemple et puis m'arrêter. Après, je vous ai donné des exemples d'utilisation de biomasse oléagineuse. Alors, les oléagineux, vous les avez ici, hein, certains, tournesol, le colza, le palme, et ainsi de suite. Une première étude, un cas d'étude qui a été monté à Sète, qui constitue quand même une unité industrielle de fabrication de biocarburants relativement propres à partir de tournesol. Et qui est une unité de 200 000 tonnes, qui est une unité, ce qu'on appelle le catalyse hétérogène, parce qu'on fait de la catalyse, donc il faut bien que je cite quand même le processus de catalyse. Alors bon, vous occupez pas de ce qu'il y a décrit. Le procédé classique est un procédé homogène. Hein? C'est-à-dire, c'est un procédé qui vous produit tout ce qu'il y a à droite. Et ce qu'on cherche là-dedans, c'est uniquement ça. Et ça. Tout le reste, c'est des coproduits qui sont, qu'il faut enlever ou qu'il faut laver, et choses comme ça. Donc le procédé, c'est toi. Il vous fait tout ça. On remplace le catalyseur homogène par un catalyseur hétérogène. Et il vous permet d'obtenir assez facilement le biodiesel plus du glycérol, avec un rendement tout à fait acceptable en qualité de biodiesel, et surtout un glycérol propre, avec un taux de pureté de 98%. Donc ça, c'est une réalisation pour faire un biocarburant, mais avec un procédé propre, et qui conduit à un coproduit également de grande pureté. Voilà. Alors, j'avais... Oui, j'ai encore le temps. J'avais... un ou deux exemples sur la biomasse cellulosique. Alors, le gisement le plus important que je vous ai dit tout à l'heure, c'était la lignocellulose. Les lignocelluloses sont quoi? Ça peut être des futaies à croissance rapide, ça peut être des taillis, ça peut être des rémanents, des résidus, comme il est écrit là, ça peut être des céréales plantes entières. Luc est plus compétent que moi pour parler de ça. Le triticale, le miscanthus, le schwitzgras, le saule, le peuplier, tout ça, c'est des plantes qui peuvent avoir une croissance rapide et qui peuvent être utilisés pour faire comme matière première, on va dire. Cependant, à la différence de ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, pour faire de la chimie, en particulier les huiles, il faut bien voir qu'on part d'une biomasse solide. Là, je vous ai mis grosso modo la déclinaison de la biomasse partant de tiges et de fibres. T'as pas un pointeur, hein ? Partant de tiges et de fibres. Ça, c'est la matière première. Et on peut aller jusqu'à la glucose et ainsi de suite. Mais là, on est solide. Ça, c'est la structure. Ça, c'est la structure des lignocellulose. Vous avez une partie cellulose, une partie lignine. La lignine étant grosso modo le liant de la cellulose. Et le problème, il est là. Il faut extraire sélectivement d'abord la cellulose de la lignocellulose. Premier problème, premier verrou. Et ensuite, quand on a la cellulose lignine, on peut faire ce qu'on veut. Le verrou, il est là. Donc là, c'est un éclaté de la structure de la lignocellulose. Mais pour nous, chimistes et les biochimistes, tout ce que vous voulez, le verrou, il est ici. Et actuellement, tous les programmes qui sont montés pour résoudre ce problème allient ces quatre principes. La chimie plus respectueuse de l'environnement, on l'a vu. L'utilisation, si possible, de solvants verts quand on ne peut pas faire autrement. Les réactions en milieu condensé. De nouveaux catalyseurs, et là on a des voies enzymatiques qui seront importantes, et l'association de la chimie et de l'enzyme pour faire des réactions chimio-enzymatiques. Voilà. Donc je termine à nouveau sur cette conclusion. Les bioressources ne sont pas illimitées. Il faut regarder très sérieusement l'équilibre énergie, non-énergie alimentaire, et à notre avis, on pourra faire quelque chose dans le domaine du non-énergétique beaucoup plus facilement que dans le domaine énergétique, en conservant la plus importante part pour l'alimentaire. Voilà. J'ai terminé.
Merci pour cette première mise en perspective. On reviendra peut-être tout à l'heure avec Anne-Marie Chrétienneau sur la question de la gouvernance et puis des tensions sur les prix. Donc Luc Suret va venir mettre en évidence ses pratiques d'agriculteur.
Bien, bonjour à tous. J'avais une première page, j'ai vu tout à l'heure qu'elle s'est un petit peu modifiée, donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Donc je suis agriculteur bio en Charente-Maritime. L'agriculture bio, en fait, est un exemple d'activité économique qui se passe complètement, de par son cahier des charges, de la chimie traditionnelle. Donc moi j'exploite 84 hectares, j'ai un peu d'élevage et puis diverses cultures. Alors, attendez. Ça, c'est un petit peu modifié, donc je ne vais pas rester longtemps. Donc, on fait en agriculture biologique par rapport à une agriculture plus traditionnelle. On a de multiples espèces variées, des céréales et une grande part de légumineuses à graines qui sont le soja, lentilles, pois chiches, pois verts, haricots, flageolets. Les légumineuses ont l'avantage de faire en sorte que l'on puisse se passer complètement d'engrais d'origine pétrolière, vu que les légumineuses prennent leur azote dans l'air. C'est donc tout l'avantage de notre mode de culture qui nous permet, en alternant une année sur deux, une céréale et une légumineuse, de pouvoir avoir un système qui tourne relativement bien. Bon, d'autant plus que ces légumineuses produisent des protéines. Et, alors, même si nos modes alimentaires ont changé et qu'on consomme depuis 40 ans maintenant beaucoup plus de viande qu'on ne le faisait auparavant, le fait de produire des protéines végétales peut permettre de réduire la part de viande. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous. Donc une gamme de cultures très diverse et surtout une place importante des légumineuses. L'agriculture bio en Poitou-Charentes, qu'est-ce qu'elle représente ? Eh bien, elle ne représente pas grand-chose. Alors, je vous ai tiré des tableaux qui sont issus du pôle conversion, qui se charge de manager toutes les conversions vers l'agriculture biologique dans le Poitou-Charentes. Ainsi, on peut voir qu'en 2011, il y avait 70 exploitations qui se sont converties à l'agriculture biologique. Ce qui ne représente pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup. On part de pas grand chose, on part de quelques pourcentages. Et puis, petit à petit, d'année en année, on arrive un petit peu à convaincre qu'un autre mode de production est possible. Donc, de plus en plus d'agriculteurs nous rejoignent. Mais on freine encore pour se développer. Donc, un petit état des lieux pour détailler à peu près dans quel domaine d'agriculture se trouvent les conversions, le passage vers la bio. Donc, ce sont les grandes cultures, les cultures céréalières, et le maraîchage qui domine. Donc là, c'est pour vous montrer l'évolution. Quand on part des années 90, on était un petit pourcentage d'agriculteurs bio. Ça représentait environ 200 exploitations en Poitou-Charentes. Puis on voit qu'en 2011, on a passé les 700 exploitations, ce qui représente bien 2 hectares de la surface agricole. 2% de la surface agricole, soit pas grand-chose. Je vous l'accorde. Mais l'objectif, c'est, alors je vous rappelle les objectifs du Grenelle de l'environnement, c'était de passer à 6% en 2012, cette année, donc objectif non atteint, et 20% en 2020. On a encore un peu d'espoir, mais ça va être difficile. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, puisque on est bien d'accord que le mode de culture qui utilise énormément de chimie traditionnelle, d'engrais qui viennent du pétrole et autres, a ses limites et aura ses limites. La question, c'est pas de se demander si les limites, on les atteindra dans 10, 15, 20, 100, 200 ou 500. On les atteindra, les limites. Donc, il faut qu'on s'apprenne à progressivement basculer vers une agriculture qui permette de nourrir nos citoyens, et de ménager tout l'environnement. Bien. Alors, pour nous permettre de cultiver et d'augmenter notre productivité, l'agriculture bio a certainement besoin de moyens. Depuis les années 50, l'agriculture s'est super développée. Toute l'agro-industrie, avec des grands groupes multinationaux, se sont... mis les mains dans le cambouis pour réussir à apporter des solutions faciles à mettre en œuvre et qui allaient permettre de multiplier les rendements par 3, par 4, d'augmenter ainsi presque artificiellement la productivité des sols. Et on a oublié de développer une recherche qui aurait permis d'avoir d'autres moyens à disposition des agriculteurs. Maintenant, je crois qu'il est un petit peu temps de basculer vers un autre mode. Et donc, depuis 4-5 ans, on voit des expériences nouvelles qui apparaissent. Et on se rend compte que peut-être que l'on va, par exemple, pouvoir protéger nos plantes avec d'autres plantes. Donc il y a par exemple tout un domaine d'activité qui s'appelle les préparations naturelles à base de produits peu préoccupants. Donc c'est en fait ce sont tout ce qui regroupe les purins d'ortie et autres et autres préparations à base de plantes qui sont destinées à soigner les plantes, les animaux ou les êtres humains. Donc c'est des idées assez récentes. Je pense que vous avez tous entendu parler de purin d'ortie à un moment. Vous avez peut-être posé des questions. Vous avez entendu le débat, autorisé, pas autorisé. Voilà, donc c'est vrai que c'est des vrais sujets de discussion. Nocif, pas nocif. Bon, ben après tout, on attend les réponses. Mais pendant 50 ans, c'était des sujets qui ont été pas du tout abordés. Et il est grand temps à présent de prendre les dossiers en main. Et c'est ce qui se passe. Donc le purin d'ortie est autorisé maintenant. Voilà. Alors ça pose une toute petite question en termes de recherche. Avant, quand on voulait trouver un fongicide pour soigner une maladie sur une plante, eh bien on élaborait une molécule, puis on allait la vendre. Donc on investissait dans de la recherche, et puis après on vendait. Là, si on trouve une solution à base d'un purin d'ortie, prendre la page suivante, qui est un autre cas, c'est le cas de la prêle, eh bien, admettons, on trouve une solution. Donc là, donc c'est des publications assez récentes qui ont démontré l'efficacité de la prêle pour lutter contre des maladies cryptogamiques, donc des maladies fongiques. Donc ben là, je vous donne finalement une solution. Il suffit de faire une décoction de prêle, 1 kg de prêle sans racines, dans 10 litres d'eau et diluer 5 fois. Puis avec ça, vous avez un moyen pour soigner vos plantes. Vous voyez, c'est fini, je n'ai plus rien à vendre. Donc, par contre, vous avez un moyen pour, alors peut-être pas guérir complètement une plante, mais vous avez un moyen pour éviter que les maladies se développent et prévenir. Et voilà, après, il n'y a plus d'économie faisable ou comment est-ce qu'on peut vendre. Voilà. C'est assez difficile de pressentir comment est-ce que la recherche peut s'investir pleinement dedans, finalement, des savoirs, pour découvrir des savoirs qui ne pourront à la suite peut-être pas être vendus. Une question que je soulève. Voilà. Donc actuellement, l'ITAB, qui est l'Institut Technique Agriculture Biologique, travaille sur la mise sur le marché de nombreuses préparations à base de plantes. On se pose d'autres questions. On a besoin d'engrais pour des fois produire nos céréales. Le blé a besoin d'engrais, c'est difficile de le faire pousser, même quand on est en succession à base de légumineuses. Si on veut augmenter un petit peu notre production, on apporte un petit peu d'engrais. Donc on réfléchit collectivement, je ne suis pas tout seul, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de l'engrais? Alors, il y a l'idée de la méthanisation, par exemple. J'ai des collègues dans l'Essonne qui se sont pas mal investis dans ce type de projet. Alors, on connaît la méthanisation des lisiers, des déchets et autres. Eux, ce qu'ils ont envie, en fait, ils dédient une partie de leur surface. Ils prennent, par exemple, 10 à 15% de leur surface. Ils produisent de la luzerne. Et au lieu de nourrir des animaux avec la luzerne, c'est cette luzerne qu'ils vont faire méthaniser. La luzerne est une légumineuse riche en azote. Voilà. Donc, en méthanisant la luzerne, ils fabriqueront de l'énergie, du biogaz, avec tout qu'on peut faire, mais ils auront un digestat relativement riche en azote et qui pourra fertiliser le reste de leur exploitation. Petite idée vers l'autonomie. Il est vrai qu'il y a 200 ans, on nourrissait des bœufs avec de l'herbe pour aller labourer les champs. Pourquoi pas, est-ce que simplement produire de l'herbe pour produire de l'énergie et des engrais? Une piste faisable encore, mais il y a des histoires de rendement qui sont certainement améliorables, des rendements de productivité dans les processus de méthanisation, de récupération d'électricité. Je pense que là, tout n'est pas encore parfait. Bien, donc l'agriculture bio, possibilité de se passer de chimie traditionnelle, et c'est aussi un moyen de développer une nouvelle économie. Alors moi, j'adhère à une coopérative. L'année 2012, c'est l'année des coopératives, donc j'en profite pour défendre un peu le système coopératif. Nous sommes une petite coopérative, toute petite coopérative. Il y a des grosses coopératives qui représentent jusqu'à 10 000 adhérents. Nous, on est une petite coopérative, on est une centaine d'adhérents. On est la coopérative complètement engagée dans le bio en Poitou-Charentes. Elle s'appelle la Corab. Et donc, nous avons des petits moyens. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des idées. On s'est dit, bon, on a des petits moyens, on défend des principes, des valeurs, mais on a besoin de nous développer. Alors, il fallait qu'on construise un silo pour stocker et pour mieux travailler nos céréales. Donc l'idée, bon, est-ce qu'on investit, on va faire un emprunt à la banque, on construit un silo? Bon, ça fait beaucoup. On réfléchit, on s'est dit, le mieux, c'est quand même de s'associer. Et là, donc, on a discuté beaucoup avec certains de nos partenaires, de nos clients. Et en fait, on s'est tous associés. Donc, la production, c'est les coopératives. Donc, Corab, UDCA, c'est les coopératives non bio, qui sont nos partenaires. La production, la transformation, on voit Minoterie, qui font de la farine. Bioplanète, qui font de l'huile. Puis, Céréco, qui transforme des céréales. Et puis la distribution, le groupe La Nature, basé à La Rochelle, et puis le réseau de magasins spécialisés bio, Biocop. Donc c'est à peu près la première fois où en fait la production, la transformation et la vente, le commerce se sont associés pour construire un outil en commun. Alors ce n'est pas simplement mettre de l'argent pour construire un silo, c'est tisser des vraies relations. Ainsi, tous ces partenaires se sont mis autour de la table pour faire des contrats, on appelle des contrats de filière, où les producteurs discutent du prix avec le transformateur, qui discute du prix avec le distributeur en toute transparence. Voilà, c'est très très simple. Et ainsi, on n'a pas de problème économique, à qui que ce soit, à quelque étape que l'on soit. Tout le monde dit, moi, ça me coûte tant de faire, donc voilà, c'est transparent. C'est un moyen comme ça qu'on a trouvé de tous ceux qui tournent autour du même métier, de bien valoriser ce que l'on fait. Et d'ailleurs, cette association, là encore, il y a un projet de développer alors, un pôle bio, on rigole en disant la bio-vallée, mais chacun des transformateurs donc, va installer autour du silo des usines de transformation pour presser de l'huile, pour faire de la farine, tout ça, tout en spécialisé en bio. Le fait de le grouper, ça va pouvoir faire des grosses économies d'échelle et de encore mieux valoriser nos produits. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce que l'on fait dans l'agriculture bio en Poitou-Charentes. Je vous remercie.
Merci. On reviendra sûrement sur votre appel du pied à la recherche que vous avez fait tout à l'heure, donc on vous posera peut-être la question de savoir quelles sont vos relations avec les universitaires et chercheurs poitevins pour vous aider à améliorer à la fois vos réflexions et vos pratiques. Mais bon, on anticipe peut-être sur le débat. Monsieur le Président, Jacques Barbier de Valagro, un pionnier de tout ce qui est valorisation des produits de l'agriculture. La parole est à vous.
Remonter, voilà.
À droite, à droite, à droite. En bas, en bas.
Voilà, ça va être bon. Encore un peu en bas.
Merci. Bon, moi, je devais intervenir, effectivement, pour faire le lien entre ce que peut être une chimie verte, qu'il faut bien sûr découvrir chez les chercheurs, et le développement industriel qu'on pourrait espérer de cette chimie verte. Et ensuite, pour que notre collègue puisse parler de développement économique, hein, parce que finalement, c'est ça. Alors, Pour parler de la chimie verte, tout à l'heure on m'a présenté comme le président du pôle des éco-industries. Je crois que ce soir je ne vais pas du tout vous parler du pôle des éco-industries. Je vais simplement vous parler de la plateforme Valagro. Elle vous a déjà été un peu présentée par Joël tout à l'heure, hein, puisqu'il rappelait quand elle a été créée. Aujourd'hui, cette plateforme Valagro a beaucoup évolué, puisqu'elle a été créée en 1992. Il faut rappeler cette époque. C'était l'époque où il y avait des surplus alimentaires en Europe, où l'Europe faisait des stocks de blé, de maïs, y compris de viande, y compris de beurre. Il y avait du beurre d'intervention, de la viande d'intervention. Et l'Europe était en train de se ruiner à stocker les surplus de production. Et à un moment, donc, l'Europe a pris la décision, c'était la PAC, mais qui avait été créée, qui existait bien avant 1992. Mais vers 1992, l'Europe a pris une décision grave par rapport aux agriculteurs, c'est-à-dire, elle a dit, on va mettre des terres en jachère. Alors, bien sûr, il y a eu des mouvements qui ont conduit à quelque chose qui était complètement impensable. Ce sont des jachères, mais vous avez le droit de les cultiver. Et vous avez le droit de les cultiver dans la mesure où le débouché de ces récoltes serait un débouché non alimentaire. Et donc, à cette époque-là, a été créé en France, à peu près chaque région a créé sa plateforme Valagro. À cette époque, la mission de Valagro n'est pas celle qui est là. C'était à peu près, donc Valagro, mener toute action de recherche visant à développer des procédés industriels conduisant à un usage non alimentaire des produits de l'agriculture. Donc vous voyez quelque chose, aujourd'hui, si vous dites ça, c'est vrai qu'immédiatement, toute la société se révolte en disant « mais il y a des gens qui meurent de faim » et faire du non alimentaire avec des produits alimentaires, c'est quelque chose de scandaleux. Cette époque a existé quand même. Donc aujourd'hui, Valagro a quand même changé depuis 1992 et on en est à mener toute action de recherche visant à substituer dans les procédés industriels le carbone fossile, vous voyez à qui on pense, c'est-à-dire que c'est le pétrole, par du carbone renouvelable. Donc on est déjà dans cette démarche-là, aller vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hein, on veut essayer de se substituer, de substituer le pétrole, etc. Très rapidement, dans ce que je vais vous dire, et je vais reprendre un petit peu ce qui a été présenté par Joël Baron, si on fait un petit calcul, on se rend compte que... c'est vrai que le carbone renouvelable le plus évident, c'est le carbone végétal, qui vient de la photosynthèse. Alors, je ne sais pas si j'ai mis un truc de la photosynthèse. Ah, ben voilà, tiens. Qui vient de la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement du gaz carbonique qui va réagir avec de l'eau en utilisant des rayons du soleil, et on fait une réaction qui va conduire à ce qu'on appelle un hydrate de carbone. Donc c'est la première étape de la constitution du végétal. Et donc vous voyez que c'est relativement louable comme réaction, puisque ça va consommer du CO2, ça va donner un carbone qui est un carbone que l'on va pouvoir brûler, puisque ça va être du bois, ça va être de la paille, ça va être tout ce que vous imaginez. Donc un carbone qu'on peut brûler, qui relargue du CO2, le CO2 qui lui-même peut revenir ici, et donc, oui bien sûr, quand on brûle, là c'est de l'oxygène, pardon, mais si je le brûle, c'est du CO2, et donc c'est le cercle vertueux du carbone. Mais, donc ça serait formidable si effectivement du végétal, on en avait suffisamment. Et il a été bien montré que, et maintenant je pense que tout le monde est à peu près d'accord à dire que, il y a un peu de végétal en excès, mettons 10% de ce qui se produit peut-être aujourd'hui, pourrait être utilisé pour faire une chimie d'un carbone, utilisant un carbone renouvelable végétal, mais qu'il ne faut surtout pas partir comme on était parti en 92, en 2000, où on était parti à dire on va faire des carburants, on va faire le pétrole de demain. Moi, je me souviens à une assemblée générale de coopératives agricoles où il y avait eu une photo qui avait été projetée par le président où chacun des membres du conseil d'administration était habillé en émir et où il se voyait déjà remplacer complètement les émirs arabes. Bon, ça, il ne faut plus y croire. Il y a un petit peu de végétal qui subsiste, et ce petit peu de végétal que l'on peut espérer récupérer pour faire de la chimie, ça doit être un végétal qui est utilisé pour les usages les plus nobles. Alors, je continue de présenter Valagro. Donc, Valagro, bon, ça vous intéresse peut-être pas beaucoup, tout ça, c'est très financier. Ce qui est important pour Valagro, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme Valagro a développé des procédés qui ont été brevetés et que la plateforme Valagro met à disposition des industriels régionaux ces procédés gratuitement, mis à disposition gratuitement, dans la mesure où l'industriel vient développer une unité de production en Poitou-Charentes. Et donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est quelques réussites que nous avons connues et vous allez voir qu'il y a une évolution de la pensée depuis le début de Valagro, avec des choses qui étaient peu recommandables, mais comme elles existent, eh bien, on ne peut pas les détruire, et donc elles continuent à travailler, et puis vers des choses qui sont de plus en plus recommandables. Donc, ces brevets à disposition du développement économique régional, et c'est pour ça que la plateforme Valagro est une société d'économie mixte locale, où l'actionnaire majoritaire est la région Poitou-Charentes. C'est la raison... ce retour vers l'économie régionale qui fait que la région peut être actionnaire d'une société privée. Alors, dans les domaines dans lesquels Valagro a le plus de propriétés industrielles, c'est à peu près 50% sur des agrocarburants, 25% sur des agromatériaux et 25% sur des agroproduits. Vous voyez que moi, qui fréquente beaucoup le monde de l'agriculture, et qui fréquente beaucoup, en particulier, des élus, puisque mon actionnaire majoritaire, c'est la région, et que dans la région, il y a bien sûr des élus qui sont verts, eh bien, je ne parle pas du tout de biocarburant, il faut être protégé par le CNRS pour parler encore de ça aujourd'hui. Je dis ça pour Joël. Alors, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on a fait sur les agrocarburants, de quoi est-on parti et où sommes-nous. La première réalisation dans la région, ça a été l'usine de Chalandray. L'usine de Chalandray, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des oléagineux, du colza. Alors déjà, celle-là, elle est beaucoup plus respectueuse de l'environnement que tout ce qu'on peut connaître ailleurs. Parce que vous avez, d'une façon générale, des usines... Alors, on prend des oléagineux qui vont contenir de l'huile. On va retirer l'huile de ces oléagineux. Et par une réaction chimique que vous a montré un petit peu tout à l'heure Joël, vous faites réagir un alcool là-dessus et puis vous fabriquez un ester. Alors donc cet ester, en réalité, c'est quelque chose qui ressemble énormément à un gazoil et qui a à peu près les mêmes propriétés de combustion et qui peut se substituer au gazoil. Alors cet ester, en réalité, il est, dans l'usine de Chalandray, produit de façon... à peu près, c'est une, à peu près une éco-production, parce que l'usine est une usine implantée dans les champs, et sa capacité de production fait de l'usine fait que le colza qui est transformé ne vient pas plus de 20 ou 30 km de l'usine. Donc, il y avait déjà une volonté de se dire il faut qu'on ait un procédé qui soit respectueux de l'environnement. Malgré tout, c'est quand même des oléagineux que l'on utilise. C'est quand même des carburants dits de première génération, c'est ceux qui sont sortis vers les années 92, c'est ceux qui, à cette époque-là, étaient tout à fait justifiés, puisqu'on nous disait il faut consommer absolument les produits de l'agriculture parce qu'il y a des surplus. Alors, je ne sais pas, parce qu'à cette époque-là, le nombre d'habitants dans le monde n'a pas cru d'une façon aussi spectaculaire, c'est-à-dire que, visiblement, les Européens s'en foutaient qu'il y avait des gens qui mouraient de faim ailleurs dans le monde. Hein. Aujourd'hui, on commence à s'en rendre compte, mais à cette époque-là, c'était ça. Alors, il y a une unité qui s'est développée à La Rochelle sur un procédé qui était encore beaucoup plus respectueux, puisque là, il n'y avait pas toutes les étapes de trituration, etc., qui font des rejets. Ce procédé, lui, ne faisait pas de rejets. C'était un procédé qui avait été mis au point par Valagro. Et cette unité-là est arrêtée pour faire des carburants. Pourquoi elle est arrêtée? Eh bien, parce que, d'abord, c'est pas très, même si le procédé est sans doute le plus propre que l'on puisse imaginer pour faire des carburants selon cette réaction d'estérification, eh bien, en réalité, la graine de colza a énormément augmenté. Et de notre côté, au niveau de Valagro, bien que ce soit un procédé Valagro, on n'a pas poussé pour poursuivre. Et donc, cette unité-là va être reconvertie pour faire des produits à haute valeur ajoutée venant de l'oléochimie, mais ça ne sera pas des carburants. On a évolué. Ensuite, on est allé vers ce que vous disiez, Joël, vers des deuxièmes générations. Alors, les deuxièmes générations, c'est quoi? Eh bien, ça va être de la lignocellulose. Quand on nous a dit... Touchez plus aux produits, parce que nous, en plus, on faisait des gazoils à partir d'huile, mais vous aviez des unités qui faisaient à partir de sucre, à partir de blé, à partir de maïs, à partir de betterave à sucre, qui faisaient de l'éthanol. Pour les, comme carburant de substitution, c'est soit des dérivés d'huile végétale pour les gazoils, soit de l'éthanol pour substituer l'essence. Et pour faire des substituts d'essence, vous avez beaucoup de procédés qui se sont développés à partir du sucre alimentaire, à partir de la canne à sucre dans des pays comme le Brésil, à partir de la betterave sucrière chez nous, et à partir de blé et à partir de maïs. À partir de maïs, vous vous souvenez de la progression aux États-Unis de la consommation de maïs pour faire de l'éthanol et pour économiser de l'essence. Et vous vous souvenez, il y a 4 ou 5 ans, du scandale où les Mexicains, qui sont quand même pas très loin des Américains, eh bien, n'avaient même plus le maïs pour faire leurs tortillas. Et que ça avait provoqué une famine au Mexique parce que les Américains se faisaient de l'agrocarburant. Alors, donc, à cette époque-là, on s'est dit qu'il faudrait partir d'autre chose. Alors, on a essayé de partir d'autre chose. Alors, ça, c'est un petit peu ce que vous a montré Joël tout à l'heure. Il avait une très jolie photographie où il m'ont montré que la lignocellulose, c'est-à-dire c'est le bois, c'est la... La lignocellulose, c'est le constituant essentiel d'un végétal. C'est ce constituant du végétal qui va structurer le végétal, qui va faire qu'un petit blé, eh bien, il va être droit parce que on a... ce matériau composite qui est constitué de fibres de cellulose qui est très solide mécaniquement, fibres de cellulose entre elles collées par un ciment qui est la lignine et qui est l'hémicellulose. Ce qui est intéressant pour le chimiste là-dedans, tout est intéressant, mais dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est ces fibres de cellulose. Pourquoi ? Parce que les fibres de cellulose, c'est constitué, c'est un polymère, la cellulose. Et c'est constitué, la molécule de base du polymère, c'est du glucose, c'est-à-dire c'est le sucre. Et alors, pour faire le polymère, vous avez alors une molécule de glucose, et puis une autre qui se colle derrière, puis une autre qui se colle derrière, puis vous amenez à peu près un millier de molécules comme ça les unes derrière les autres, et vous avez fait une fibre qui est très solide. L'idée, c'est de se dire... quand on veut faire de l'éthanol, on fait fermenter du sucre. Si on pouvait transformer la cellulose la dépolymériser, couper, eh bien, on récupérerait des jus sucrés et on pourrait faire de l'éthanol. Et c'est ça qu'on a cherché à développer et c'est un procédé comme ça qu'on a développé. Alors là, en réalité, la lignocellulose, on en trouve où? Alors la plus noble, c'est ça. Il y a la paille, il y a le bois. Alors le bois... la courte rotation, si on veut. Il y a des cultures. Alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas reconnaître. Mais enfin, c'est des cultures qui doivent conduire à de l'énergie. Et puis, il y a d'autres choses. Rapidement, quand on a développé ce procédé qui permettait donc de faire de l'éthanol. Alors, le procédé, je ne sais pas. Voilà, le procédé, c'est celui-là. Vous voyez, on a un procédé où on va prendre la lignocellulose. On va défibrer cette lignocellulose de façon à rendre les fibres que je vous ai montrées accessibles à des enzymes qui vont venir dépolymériser la cellulose pour obtenir du glucose. Puis ensuite, on fait fermenter le glucose. Et donc, on a mis au point un procédé là-dessus. Et puis actuellement, eh bien, le procédé, il est en train de se développer à Mel. On a une unité pilote qui démarre sur ce procédé-là. Mais on ne travaille pas sur les produits dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que de la paille, vous discutez, vous avez vu l'an dernier, il y a eu de la sécheresse. De la paille, il n'y en avait plus suffisamment. Donc, je ne peux pas dire on va faire des carburants à partir de la paille. Il y a un autre usage beaucoup plus noble de la paille que celui de faire un carburant. Bon, le bois, j'ai fait une réunion il y a 15 jours avec toute la filière bois au Rurali. Il y avait tout le monde qui était là, les scieurs de bois, etc. Quand j'ai dit est-ce qu'il y a du bois, immédiatement on m'a dit il n'y en a pas. Parce qu'on est parti, Mais non, on a cherché à promouvoir le bois énergie, ce qui est très bien. Quand vous avez un bout de bois, au mieux l'utiliser, si vous avez besoin de chaleur, plutôt que d'aller acheter du pétrole, vous le mettez dans votre cheminée, et c'est quand même un remarquable combustible. Et donc, on ne va pas aller contre le bois énergie pour fabriquer, nous les chimistes, de l'éthanol qui va aller faire des carburants, surtout que le rendement de la combustion est bien meilleur que le rendement que moi, en chimie, je peux faire pour aller vers de l'éthanol. Donc ça, je n'ai pas le droit d'y toucher. Bon, la courte rotation, c'est la même chose, on fait des granulés de bois. Et puis, bon, les cultures, ceux qui vous disent on va faire des cultures énergétiques, on va faire je ne sais pas quoi, tu en as parlé un petit peu, mais l'humiscanthus, par exemple. Mais en réalité, toutes les études qui ont pu être faites montrent que les meilleures terres pour cultiver le blé sont aussi les meilleures terres pour cultiver le miscanthus, et que le miscanthus, si vous le mettez dans une terre très pauvre, et bien, il ne pousse rien, et donc ça n'est pas intéressant. Et donc finalement, notre procédé aujourd'hui, eh bien, on prend ça. On prend quoi ? On prend des déchets de bois, des bois qui ont été traités, donc qui sont pollués, des traverses de chemin de fer, des vieux chiffons. Et puis c'est à partir de ça, parce que dedans, bah bien sûr, vous avez aussi de la cellulose. Quand je dis des vieux chiffons, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le coton, c'est presque de la cellulose pure. Et donc, plutôt que ces vieux chiffons, ne pas les réutiliser, eh bien, il faut faire un ramassage, il faut faire un tri, et il faut ensuite les utiliser. Et donc, notre procédé qui démarre, là, dont je vous parlais, démarre sur que des coproduits, que des déchets. S'il n'y a pas suffisamment de biomasse, comment peut-on espérer en avoir ? Eh bien, on a développé un procédé qui consiste à cultiver des algues. Alors, les algues, c'est quoi ? Eh bien, c'est bien sûr de la biomasse. Vous vous souvenez tout à l'heure de ma petite feuille, là ? Pour faire de la biomasse, il me faut... Je vais y revenir si je peux. Non, je suis parti dans le mauvais sens. Pour faire de la biomasse, il me faut du soleil. C'était là. Il me faut du soleil, mais quand j'ai du soleil, c'est parfait. Il me faut du gaz carbonique, il me faut de l'eau. Si vous cultivez des algues, vous les cultivez dans l'eau. Quand une réaction se produit, il y a toujours quelque chose qui est limitant. Ou vous n'avez pas assez d'eau, ou vous n'avez pas assez de CO2, ou vous n'avez pas assez de soleil. On dit, pour les chimistes, c'est l'étape limitante. Eh bien, en réalité, quand vous cultivez des algues, la première limite de croissance, de vitesse de croissance des algues, c'est la concentration en gaz carbonique. Quand vous avez du soleil dans la journée, comme vous êtes en milieu aqueux, c'est la teneur en CO2. Et donc, on a commencé à se rendre compte de cette chose-là, et donc on a développé au niveau de Valago des cultures d'algues où on a optimisé la pression en gaz carbonique, et entre les 300 ppm de gaz carbonique qu'il y a actuellement dans l'air et la concentration optimale pour faire pousser les algues le plus vite possible, c'est 3%. Et donc, rien qu'en jouant sur la pression en gaz carbonique, on multiplie d'un facteur 10 la vitesse de croissance des algues. Et donc, en optimisant la température, en optimisant la pression en gaz carbonique et les intrants qui sont nécessaires, mais en réalité, le site sur lequel on développe les algues, c'est un site d'enfouissement d'ordures ménagères, c'est le site de sécher au Vigan. Donc vous avez les ordures ménagères qui sont enfouies, on récupère le biogaz qui vient de la fermentation de ces ordures ménagères, ce biogaz est utilisé et brûlé dans des moteurs pour faire de l'électricité, on récupère le gaz d'échappement des moteurs qui est du gaz carbonique qu'on réinjecte dans nos bassins, vous voyez ici, ce qui bulle ici, c'est le gaz carbonique. Et aussi, on va chauffer les bassins avec l'eau de refroidissement des moteurs. Et comme il faut quand même un petit peu d'intrants, eh bien les intrants, ce qu'on utilise comme intrants, C'est ce que les gens spécialistes des déchets appellent, ce sont les fonds de poubelle, qui sont en réalité des produits qui sont très riches en azote, etc. Et donc, on a actuellement, par ce procédé, des productions d'éthanol qui sont deux fois supérieures à ce qu'on peut obtenir avec de la culture de canne à sucre au Brésil, par unité de surface cultivée. Donc, voilà une biomasse. Alors, il ne faut pas, bien sûr, que les bassins soient mis sur des terres qui peuvent être cultivées, mais ces bassins-là, dans cet exemple, le groupe séché, c'est, il y a, je crois que c'est 400 hectares, peut-être. Ouais, c'est ça, 400 hectares, le site d'enfouissement. Et dessus, bien sûr, ils ne peuvent rien faire d'autre, puisqu'ils enfouissent les ordures. Une fois que les ordures sont enfouies, ils ne peuvent rien faire d'autre que de mettre des bassins, faire cultiver ces algues, et voilà une biomasse qui peut être utilisée pour faire toute la chimie dont on parlait tout à l'heure, et sans complexe par rapport à la compétition d'usage entre l'alimentaire et le non-alimentaire. Alors, sur les agromatériaux, bon, il y a une entreprise qui existe, qui s'appelle Futuramat, qui fait des matériaux complètement biosourcés. La seule, au niveau de la science, la seule chose que nous avons apportée, c'est que ces matériaux biosourcés, là, vous avez des fibres de chanvre qui sont dans un matériau. Eh bien, en réalité, il y a non-compatibilité entre la fibre de chanvre, qui est hydrophile, et la colle polymérique, qui est hydrophobe. Et vous voyez que les fibres ne sont pas collées au matériau. Vous avez envie de la prendre, de tirer dessus, en réalité, elle n'est pas collée. Et donc, au lieu d'être un renfort, cette fibre de chanvre fragilise le matériau. Et donc, le seul truc, ça a été de trouver des traitements qui permettent de compatibiliser les deux. Mais ces matériaux existent, et ce sont des matériaux qui dépendent d'une chimie verte. Il y a des actifs biosourcés. Bon, je ne vais pas, parce que là, je suis très long. Ça, je reprends quelque chose. C'était Science et Vie, 1926. Le pétrole n'avait pas encore envahi, la pétrochimie n'avait pas encore envahi la chimie. À l'époque, c'était de la carbochimie, c'est-à-dire on extrayait du bois, et c'était, alors j'avais des photos, je n'ai pas voulu les mettre, c'était des charbonniers qui dans les forêts travaillaient, faisaient le charbon de bois, et en même temps que le charbon de bois se faisait, il y avait une distillation du bois, et on récupérait une centaine de produits qui étaient l'acide acétique, qui étaient tous ces produits qui ensuite, qui étaient des produits naturels, qui ensuite ont été produits par la pétrochimie. Par exemple, on prenait de l'acétylène, à partir de l'acétylène, on faisait de l'éthanol. Ben, nos ancêtres faisaient de l'éthanol par fermentation de sucre, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on a été complètement, tous les chimistes de cette époque-là, ont été complètement étouffés par une industrie qui est devenue prédatrice, puisque tout le savoir-faire a disparu, et qu'aujourd'hui, eh bien, Joël et moi, je pense, on a été parmi ceux qui sont parmi les premiers à être revenus sur une chimie beaucoup plus naturelle. Alors ça, c'est tout ce qu'on peut faire, je n'en parlerai pas. Là, c'est pour Luc, ça. Voilà sur quoi on travaille. Alors il dit, vous prenez, je ne sais plus quelle plante il prend, il a fait macérer, il en met comment ? C'était la prêle, il prend de la prêle, il a fait macérer. Bon, il faut savoir que parmi nous, il y a des gens qui jardinent, et moi j'adore ça. Mais je ne vais pas avoir de la prêle si j'ai besoin de traiter une maladie cryptogamique, etc. Donc ce qui serait bon quand même, c'est qu'on puisse trouver dans des magasins spécialisés des produits qui peuvent permettre ces traitements. Eh bien, on travaille sur des extractions avec des solvants, des biosolvants respectueux de l'environnement, etc. Et on se rend compte que, par exemple, l'œillet d'Inde est capable de conduire à des effets qui sont... Ça, c'est sur les racines, je crois. Hein. Ouais. C'est des petits vers qui viennent... Oui, c'est ça. Qui viennent manger les racines, etc. Bon, donc, voilà, ça marche très bien. Il y a des effets... Alors, pour ça, c'est ce qu'on appelle l'allélopathie, c'est-à-dire qu'il y a des plantes, quand elles germent, comme le maïs, par exemple. Quand le maïs germe, il génère des molécules qu'il va disperser autour de son germe qui empêchent d'autres adventices, d'autres plantes de germer et de venir l'envahir. Donc, ces molécules, on peut se dire, on peut les utiliser comme des herbicides. Mais ce sont des herbicides naturels, respectueux de l'environnement, dégradables, etc. Donc on peut trouver des produits qui peuvent traiter. On n'est pas obligé de dire « je ne fais rien », parce que c'est vrai que si la culture bio n'a rien à sa disposition, les rendements ne seront pas terribles. Donc il faut trouver des produits de substitution qui soient respectueux. Et donc les gens de la chimie sont capables de faire des propositions et d'aller... Alors, bon, moi j'en avais d'autres, là, voilà. Bon, à partir de soucis officinales, à partir de graines d'angélique avec des capacités répulsives pour les insectes, etc. Et aujourd'hui, le summum de la chimie verte, c'est ce qu'on cherche à développer à Valagro, à mon sens, c'est la chimie du carbone recyclé. C'est-à-dire, ça rejoint ce que j'ai essayé de vous montrer. On est capable, à partir de déchets, à partir d'ordures ménagères, à partir d'aller chercher le carbone. En réalité, en France, aujourd'hui, il y a 868 millions de tonnes de déchets par an. Combien tu avais dit pour le végétal ? Non, non, pas de déchets, pour le végétal. La production...
Ah non, la production totale, c'est 180 milliards.
Ah, ça c'est mondial alors. C'était mondial, d'accord. Bon, enfin bref, 868 millions de tonnes de déchets par an au niveau français. Ces 868 millions de tonnes, si on fait le calcul, ils contiennent de l'ordre de 100 à 200 millions de tonnes équivalent pétrole. En France, actuellement, on importe 120 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire qu'on a autant de carbone dans nos déchets que de pétrole qu'on importe. Et donc, c'est cette chimie-là qu'il faut développer. La chimie la plus verte, ça sera celle-là. Alors, elle ne vient plus du végétal, c'est plus du tout du végétal, mais elle est respectueuse de l'environnement. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je présente Valagro, non plus comme utilisant des produits de l'agriculture pour faire une application non alimentaire, comme utilisant des coproduits de l'agriculture, parce qu'en réalité, si on respecte tout, ben, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et c'est ce que je propose aujourd'hui, c'est cette chimie du carbone recyclé. D'ailleurs, la chimie que l'on cherche à développer, qui est la plus, la plus belle, c'est la chimie du gaz carbonique. Vous savez que le gaz carbonique, on nous dit, c'est ce gaz qui est un gaz à effet de serre, qui augmente la température, qui, eh bien, notre idée, et maintenant je crois que de plus en plus certains commencent à se lancer dans cette idée-là, c'est ce gaz carbonique, il contient un atome de carbone pour deux oxygènes, cet atome de carbone, il faut l'utiliser comme source de carbone pour la chimie du futur. Je vous remercie.
Merci. Donc, après avoir vu les tenants et les aboutissants d'une histoire un peu mouvementée, on y reviendra tout à l'heure, entre les projets qui commencent, ceux qui ne finissent pas, etc. Bref, on reviendra ça tout à l'heure lors du débat. Marie Chrétienneau va nous éclairer sur cette notion d'économie verte et peut-être faire un lien avec ce qui vient d'être dit.
Sur le plan technique, j'ai pu suivre Jacques depuis la guérite. Alors j'ai la. Mais pour des questions techniques, j'essayais de régler. On a essayé de régler ça ensemble. Donc j'ai pas tout à fait ce que je voulais, mais j'ai beaucoup trop d'ailleurs par rapport au temps qui nous restera. Donc Non. C'était très intéressant. Alors, par contre, là, on passe à des considérations qui sont plus, bien sûr, plus macro, plus, alors évidemment, économiques. Et on a dit quelques considérations financières. Et puis, bah, évidemment, j'aurai une petite conclusion peut-être à faire. Par rapport à ce que moi, je retiens d'important dans tout ça. Alors, les définitions d'abord. Alors, je reprends, parce que je sais que Didier y tient, hein, je reprends sur les définitions de l'économie verte, hein, si j'arrive à faire fonctionner. Je remets celle que j'avais déjà donnée il y a un an, qui est celle que l'on trouve, j'allais dire le plus facilement, qui est celle du ministère, qui est assez précise et... Je ne la reprends pas dans le détail, j'espère que vous pouvez lire. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont donnés, et notamment il y a aussi la question de l'évaluation des décisions pour les générations futures, des effets des décisions. J'estime que ça, c'est important, et on verra après pourquoi. L'économie verte, on en trouve d'autres définitions, et... Bon, je ne vais pas les reprendre là. Là, par contre, c'est très petit. Hein. Donc, je vous mettrai après le diaporama pour que vous puissiez voir ça de plus près. J'attire l'attention sur le fait qu'il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a sa définition. Hein. C'est une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la justice sociale, tout en réduisant les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Pour certains, on a là donc vraiment un nouveau modèle de croissance qui va venir répondre à la fois à la crise économique et aux préoccupations et aux problèmes d'ordre écologique. En fait, il faut s'appuyer sur l'usage qui est fait en pratique, hein, de la notion, et là, ça va devenir beaucoup plus parlant, si je peux dire. Finalement, ça désigne toutes les activités économiques qui cherchent à respecter l'environnement, et ça concerne autant les anciens secteurs industriels, du système industriel classique, hein, si on peut dire, que les nouveaux secteurs économiques, hein, du système dit éco-industriel. Une caractéristique qui est importante à propos de l'économie verte, c'est l'importance des politiques publiques. Qui mettent, qui font en fait, hein, que l'accent est mis beaucoup dans les discours, notamment les discours politiques sur cette économie. Et enfin, l'économie verte, pour moi, vous voyez, c'est une définition plus simple. C'est tout simplement en pratique le pilier économique du développement durable. C'est ce fameux pilier économique dont on n'a pas parlé après 1992, dont on n'a jamais parlé. Et qui était bizarrement absent. Et finalement, on voit que là, l'accent est mis maintenant sur cette dimension, certainement aussi dans le contexte, évidemment, de la crise économique. Preuve en est, hein, la conférence de Rio plus 20 a pour thème principal donc l'économie verte. Alors après... Évidemment, il y a la croissance verte. Alors là, je vais passer plus vite, hein, parce que sinon, demain, on est encore là. La croissance verte, ça peut être, ça dépend, hein, l'usage, ça peut être la croissance des filières stratégiques, donc qui contribue à cette fameuse économie dite sobre et décarbonée. Ça peut être la croissance de l'économie verte. À ce moment-là, donc, ce sont finalement tous les domaines de l'activité économique qui sont plus ou moins directement concernés, mais tous sont concernés. Et puis la croissance verte, des fois, ça désigne ça désigne quand même un mode de développement économique qui sera enfin respectueux de l'environnement. Voilà, ça c'est la définition qu'on va retrouver aussi au niveau du ministère, hein, de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement. Alors, concept flou, marketing, panacée universelle, je laisse la discussion ouverte. Les filières, on parle aussi de filières vertes. Alors les filières vertes, il y a trois types de filières vertes, celles dont le développement est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'énergie, les filières qui participent à la lutte contre le changement climatique, et puis des filières qui sont sans lien direct avec l'énergie ou très transversales et qui sont des composantes efficaces de l'action pour réduire nos consommations de ressources naturelles et de matières premières. Je ne vais pas passer, prendre dans le détail, mais je veux juste vous montrer que la chimie verte apparaît ici en troisième position hein, dans les filières sans lien direct, mais qui sont des composantes efficaces de l'action. Je passe, là c'est pour montrer au niveau des marchés, hein, vous voyez, on est ici au niveau de la chimie verte, c'est-à-dire on considère hein, qu'au niveau des marchés, on est dans l'émergence. Alors pourquoi tout ça, je passe sur les... Pourquoi ? Parce que tout simplement, la chimie verte est un des secteurs que l'on booste en quelque sorte hein, au niveau de l'économie française, parce que c'est un secteur qui stratégiquement est très important. Alors, donc je ne reviens pas sur les définitions de la chimie verte dont on a parlé tout à l'heure. Par rapport à ce qu'on a dit, évidemment, la question qui souvent est posée, c'est de savoir si c'est s'il s'agit simplement d'utiliser des produits organiques ou s'il s'agit plutôt d'une évolution très... très forte, hein, fondamentale, qui est peut-être à venir. L'enjeu au niveau de l'industrie chimique en France, c'est parce que tout simplement, donc là, à ce moment-là, on parle du secteur de l'industrie chimique dans sa totalité, et on pense hein, à cette mutation hein, qui doit venir. Et donc, évidemment, le stratégiquement, ce secteur est très important, pas seulement en tant que secteur industriel, mais aussi, bien sûr, à cause des secteurs industriels qui sont en aval, qui utilisent les produits de l'industrie chimique. Donc, l'enjeu économique est très important. Alors là, c'est pour décrire évidemment l'ensemble des actions que l'État mène en faveur de l'économie verte. Mais là, vous lisez à peine, c'est tout simplement pour rappeler que ça se situe au niveau des investissements, cette action. Donc elle est déjà très, très importante dans des secteurs jugés secteurs clés. Hein. Il y a les mesures incitatives qui sont prises au niveau de la consommation. Il y a tout ce qui est renforcement de la visibilité, crédibilité, accessibilité des produits. Il y a aussi les actions sur les signaux prix, hein, fiscalité, tout ce qui est incitation, tarifs de rachat, certificats. Enfin, il y a plein d'outils, en quelque sorte, hein, qui sont devenus des outils importants dans ce contexte hein, où il s'agit d'impulser hein, cette économie verte. Alors au niveau des consommateurs, mais aussi bien sûr au niveau des entreprises. Et puis bah, la politique industrielle verte à travers le grand emprunt national. Je passe sur l'agriculture durable. Bien que là aussi, il existe une certaine approche, il existe des objectifs dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. Hein, c'était un exemple sur la progression de l'agriculture bio avec les objectifs qui ont été fixés et qu'on retrouve dans la stratégie nationale de développement durable. L'importance pour le territoire. Bon, il y a les circuits courts, la dynamisation du territoire en termes d'emploi, d'activité. Aussi, il faut qu'on pense aussi aux risques sanitaires qui sont moins élevés, donc que l'économiste doit prendre en compte. Enfin, on espère. Enfin, moi, je me méfie aussi des produits naturels. Hein, ça, c'est entre nous. Oui, la menthe, par exemple. Mais oui. Le maintien, bien sûr, aussi des paysages, la préservation de la biodiversité, hein, ce sont des choses qu'on n'a pas dit, mais qui sont aussi importantes ici. Les infrastructures agroécologiques. Hein, donc là aussi, on a des dispositifs qui sont mis en place hein, pour inciter et soutenir surtout les initiatives. Bon, je passe sur la stratégie nationale de développement durable. Et puis, donc là, je voudrais montrer un petit peu comment on peut introduire des éléments plus complexes, mais on sera loin de la réalité encore. Donc là, je reprends un schéma qui est un schéma qu'on trouve sur le site internet sur les métiers de la chimie, hein, de l'Union des industries chimiques. Alors, qu'est-ce que... Alors, le schéma, je le trouve simple, oui, a priori. L'idée ici, c'est que face à une demande des consommateurs qui est croissante, étant donné les contraintes environnementales que connaissent le secteur, il faut, pour rester, pour rester compétitif, il faut tout simplement faire les efforts en termes d'innovation scientifique. Et c'est finalement, je dois dire ainsi, qu'on peut définir finalement la place là de la chimie verte. Donc ça, c'est le schéma simple. Alors je me suis permise, si ça marche, alors normalement ça doit apparaître, mais on n'a pas les effets, c'est pas grave. Je me suis permise de compliquer un petit peu. Alors ici, en fait, on repart ici de la demande. En réalité, le secteur de la chimie, c'est une demande de consommateurs, effectivement, mais c'est aussi une demande, c'est aussi et surtout de plus en plus, une demande de consommateurs. Donc il y a aussi des exigences du côté des consommateurs et dont il faut tenir compte, évidemment, quand on élabore les produits. Il y a aussi... Là, on parle des détergents, des cosmétiques, etc. Il y a aussi la demande des industries et autres secteurs économiques en aval qui sont sensibilisés ou contraints. Ça représente quand même les deux tiers de l'utilisation de ce qui est produit par secteur de la chimie. De l'autre côté ici, on a dit il y a les contraintes environnementales. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La chimie est soumise... Alors, il n'y a pas d'abord que des contraintes, il y a aussi des engagements. Mais elle est soumise aussi à, trois objectifs. Il n'y a pas que la protection de l'environnement. Il y a aussi la santé publique. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la sécurité. Donc, c'est un petit peu plus, effectivement, compliqué que ce qu'on avait au départ. Au niveau, ce qu'on avait dit tout à l'heure, sous la notion d'efficacité économique, on disait, en fait, on entend ici qu'il faut... poursuivre un objectif de compétitivité. En fait, ici, il faut prendre en compte les coûts et les prix relatifs. On a un petit peu tout à l'heure sous-entendu quelque chose à ce niveau-là. Les prix relatifs, on sait très bien ce qui se passe, c'est que quand le prix du pétrole augmente, finalement, les produits élaborés, les produits verts, se retrouve relativement moins cher. Et ça, c'est un mécanisme économique qui est simple. Sauf que c'est un peu plus compliqué, puisque on sait que les prix actuellement ne reflètent pas tout à fait les coûts. Ils ne reflètent pas tous les coûts sociaux des produits. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans le coût, enfin le prix tel qu'il apparaît, souvent le coût social, environnemental n'est pas intégré. Donc c'est quand même les prix absolus, mais bon, relatifs aussi de fait, sont quand même biaisés. Bon, il faut tenir compte aussi de la rentabilité financière des projets. Quand je dis les projets, volontairement, j'insiste aussi sur les décisions courantes, parce qu'il y a des projets très courts dans les entreprises. mais il y a des décisions à prendre qui, évidemment, sont des décisions tenant compte des coûts, hein, mais qui se font, j'allais dire, avec certaines techniques, et c'est par là que je terminerai tout à l'heure. Et puis, il y a donc les projets, bien sûr, à court, moyen, long, et bien sûr, ici aussi, à très long terme, hein, puisque pour prendre en compte l'environnement, il faut penser à très long terme. Au niveau des innovations scientifiques, on va retomber sur le même raisonnement, hein. Il faut absolument, évidemment, des efforts en matière d'innovation scientifique, technologique. On insiste beaucoup sur les efforts en R&D et également en formation. Et puis, bien sûr, les soutiens divers à la recherche. C'est déjà, quand on le met comme ça, c'est déjà des choses qui se font. Mais ça devient effectivement primordial. Alors pourquoi ? Parce que regardez dans notre raisonnement ici, si, on disait tout à l'heure, si effectivement, puisque le pétrole, le prix du pétrole risque d'augmenter beaucoup dans la mesure où c'est une ressource qui est en train de s'épuiser, donc si effectivement le prix augmente vite et qu'à ce moment-là, le produit de substitution vert devient donc moins cher, il faut qu'il soit produit. Et il ne faut pas que ce soit n'importe quoi non plus. Donc en fait, il faut que les produits soient déjà en amont pensés, élaborés et prêts à être commercialisés sur le marché. Et donc c'est pour ça que parmi les objectifs, par exemple, dans le projet AMI, qui a été lancé l'année dernière par le gouvernement. C'est pour ça qu'on vise une opérationnalité et puis des produits de substitution qui soient commercialisables dans, disons, à partir de 2015, 2020, etc. Enfin, ce qu'on veut, c'est être prêt, quoi. Donc déjà, vous voyez, il y a des choses comme ça sur le plan financier, rien que dans des mécanismes de base en économie. Il y a des choses comme ça qui viennent renforcer l'idée qu'il faut absolument innover, qu'il faut absolument des efforts très, très importants et très ouverts, effectivement, hein, par rapport notamment au sentier de dépendance technologique pour, effectivement, se donner les chances d'élaborer des produits de substitution qui soient performants. Et puis, j'ai ajouté ici ces secteurs fournisseurs de matières premières en amont, puisque, donc, on l'a dit, là, on pense, bien sûr, à l'agriculture, puisque c'est notre préoccupation ici. Moi, je pense que dans un schéma comme celui-ci, les faire apparaître, c'est aussi une façon, en quelque sorte, de dynamiser le schéma et de dire, attention, parce que ces secteurs-là sont eux-mêmes soumis au même, alors, à des contraintes aussi, des engagements, et puis évidemment, eux aussi ont à faire face aux exigences du côté de la demande. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je pense qu'il faut que. Bon. Alors, au niveau de l'agriculture, de toute façon, ce que je voulais dire a déjà été dit, donc. Notamment sur l'adaptation, les difficultés de l'adaptation. Voilà. Je voulais terminer sur le poids des considérations financières, mais pas par rapport ce dont on a parlé tout à l'heure, mais par rapport plutôt à. Je suis désolée, hein, c'est très petit, j'ai eu des petits soucis, et puis du coup, bon. Par rapport à l'utilisation de la technique, en fait, de l'actualisation. C'est-à-dire qu'on oublie souvent. Qu'on est amené à évaluer les projets. Donc là, en l'occurrence, quand il s'agit de choisir entre un projet, j'allais dire produit classiquement, hein, de l'économie industrielle classique, et puis un projet moderne, hein, vert, on va dire, hein, on est amené à utiliser la technique de l'actualisation qui, systématiquement, favorise des projets qui ont une rentabilité sur un temps plutôt court, alors que dans les préoccupations environnementales, ce que je disais tout à l'heure, il faut travailler sur un avenir très lointain. Alors ça, c'est un sérieux problème. Et quand on a fait le forum sur l'énergie, les gens parlent beaucoup de coûts comparatifs, ces raisonnements, comme on l'a fait tout à l'heure avec les prix relatifs, sauf qu'il faut penser à la façon dont on évalue ces coûts en économie et le fait que l'avenir, quand il est très éloigné, est totalement desservi par la technique de l'actualisation. Alors, on a un mouvement, un courant, on va dire, qui demande que le taux d'actualisation soit verdi actuellement. Alors, le taux d'actualisation, il reflète la préférence pour le présent. C'est comme ça, c'est la base de l'intérêt. On rémunère le temps, même s'il n'y a pas d'inflation. On peut prendre en compte le risque, il suffit d'ajouter une prime de risque. Le problème ici, c'est que le taux d'actualisation, par exemple, il est fixé, par le Centre d'analyse stratégique à 4%, et au-delà, au-dessus de 30 ans, il peut descendre à 2%, c'est pour les projets publics. Alors, l'idéal, si on veut véritablement faire peser l'engagement qu'on prend pour les générations futures, l'idéal, ce serait peut-être de le rendre négatif. Bon. Le rapport Stern préconisait un taux de 1,4%. Alors, il faut savoir que ça affecte pas mal les calculs, parce que si on prend un taux de 1,4%, quand on calcule les dommages, la valeur actualisée des dommages causés par une tonne de CO2, on est à $85. Alors que si on prend un taux de 5%, on est à $8. Autant dire que les calculs sont pas mal modifiés. Or, il se trouve que, voilà, ça, c'est la façon dont les agents économiques font leurs calculs. La technique de l'actualisation, elle n'est pas, a priori, remise en cause. On a quand même des économistes qui, maintenant, disent, s'il faut, on peut aller jusqu'à remettre en cause l'analyse coût-avantage. La discussion est ouverte. On a d'autres économistes qui soutiennent qu'on peut laisser un taux d'actualisation comme on a actuellement, sauf qu'à ce moment-là, il faut mettre en avant certaines variables, donc qui sont des variables sur lesquelles j'ai insisté avant, c'est-à-dire on va le dire comme ça, il faut par exemple avoir un stock légué, en quelque sorte un stock de recherche et développement qui soit important. Donc on retombe toujours sur cet effort au niveau de l'innovation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut laisser aux générations futures un bon capital en quelque sorte, notamment en matière de recherche-développement. Donc, vous voyez, ça donne un peu une idée, c'est peut-être un petit peu pas très clair à certains moments, mais ça donne un petit peu une idée de la façon dont on peut travailler et bousculer un petit peu les choses pour tout simplement arriver à faire peser beaucoup plus fortement la préoccupation environnementale quand il s'agit concrètement de décider, de prendre ces décisions en économie. Alors, après, vous savez, la discussion est ouverte. Certains économistes disent on n'a aucune raison, nous, génération actuelle, de se priver, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dira qu'il s'agit d'inégalités intergénérationnelles, en notre défaveur, on n'a aucune raison de se priver pour des générations qui, dans deux siècles, auront un PIB par tête 50 fois plus élevé que nous, avec un taux de 2% par an, taux de croissance de la consommation de 2% par an. Donc ça donne une idée, voilà, des considérations à prendre en compte. On n'est pas, vous voyez, c'est quand même, on a des questions philosophiques derrière. Et je rappelle quand même que, par ailleurs, Larry Summers, à la Banque mondiale, avait fait un calcul, c'est le problème aussi d'évaluation du coût de la vie humaine, Et Larry Summers avait fait dans sa petite note, je ne sais plus si vous vous souvenez, avait fait un calcul terrible pour montrer qu'il y avait tout intérêt, les États-Unis avaient tout intérêt à délocaliser les industries polluantes en Afrique. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, puisque la note est sortie. C'est fondé évidemment sur des calculs qui appliquent la logique économique jusqu'au bout, d'où l'intérêt effectivement d'introduire des considérations sociales, environnementales et humaines. Alors la conclusion, la première citation, je ne sais pas, peut-être ça fait un peu apprenti sorcier, hein. La chimie nous laisse sonder les profondeurs de la matière et permet aux chimistes de monter de subtils agencements d'atomes, hein, qui pourraient bien exister nulle part ailleurs dans l'univers, dotés de propriétés finement ajustées à une application jusqu'ici imprévue. Si vous êtes chimiste ou avez l'intention de le devenir, vous deviendrez un magicien de la matière, capable de faire apparaître des formes attendues ou inattendues de ce qui nous entoure. Mais vous ne serez pas un vrai magicien, vous serez un manipulateur rationnel, intelligent, un architecte à l'échelle des molécules. Donc les chimistes présents nous diront s'ils se reconnaissent là-dedans. Et puis l'autre, bien sûr, qui colle tout à fait à notre sujet, hein, les chimistes sont parmi les personnes les plus aptes à relever les défis d'un développement réel, universel et durable de l'humanité. Alors de ce point de vue-là, j'espère qu'ils feront mieux que les économistes.
Merci Anne-Marie. Écoutez, je vous propose de vous tendre le micro. Enfin, vous aurez noté quand même que nos deux interventions de chimistes ont quand même mis en évidence quelque chose qui paraît évident aussi, c'est la notion du temps. Jacques Barbier nous a parlé de 2 à 3 types de projets développés depuis le début des années 90 qui se sont vus soit transformés, soit arrêtés. Alors qu'avant, sur le charbon, on a travaillé sur un siècle ou un siècle et demi de manière très, très rigorative. Et aussi, ce que Joël Barraud nous a montré, c'est qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi simples que ça, parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Et qu'en déconstruisant quelque chose, on a toujours des effets soit secondaires, soit des coproduits, etc. Donc on voit que le système devient complexe. Ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que le cynisme des calculs économiques nous éloignait de ce que Luc nous proposait avec une mutualisation, une tension coopérative qui fait bien plaisir parmi les solutions. Donc je vous propose de vous tendre le micro et puis de vous laisser interroger nos amis en rappelant qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou dans les questions qui peuvent être posées. Voilà, donc,
Eh bien, je voulais savoir si la pièce dans laquelle nous sommes est chauffée avec des déchets, parce qu'il me semble qu'il doit faire 22 ou 23 degrés.
Elle n'est pas chauffée, en plus.
On a 5 bons degrés de trop. Pardon ?
Elle n'est pas chauffée. Hein.
Elle n'est pas chauffée ?
Non.
Bon, bah, c'est formidable.
Ça m'étonne. Voilà, pas en ce moment.
Pas en ce moment. Bon.
D'ailleurs, pour vous donner une information de citoyen, vous habitez peut-être Poitiers, vous payez peut-être vos impôts à Poitiers. C'est une chaufferie collective qui chauffe l'hiver, le musée, l'espace Mendès-France et les anciens locaux de l'évêché qui sont à proximité de la cathédrale. Voilà, donc, mais là, le chauffage ne tourne plus depuis le 5 avril.
Oui, en fait, c'est un commentaire qui va dans ce sens. En Suède, il y a des bâtiments, notamment il y a une gare, la gare centrale, qui sert à la récupération de la chaleur émise par les êtres humains pour chauffer un bâtiment voisin. Donc c'est pas très surprenant que, vu le nombre de personnes dans la salle, on ait fait monter de 4 ou 5 degrés. Et on est en chimie verte, là, non ? Ou en physique verte ?
J'avais une autre question. Au-delà du coût de production de l'énergie dont vous venez de parler, où en sommes-nous dans la capacité à produire de l'énergie entre le rapport énergie produite sur énergie consommée, enfin plutôt le contraire, entre le rapport énergie consommée sur le rapport sur la quantité d'énergie produite, pardon. Parce que en général, on dépense plus d'énergie qu'on en produit. Et puis une dernière remarque, se rappeler que l'agriculture chimique aujourd'hui appliquée bien souvent, puisqu'on voit qu'il n'y a que 2% de surface agricole utilisée en bio, l'agriculture chimique d'après des gens qui se sont posés, qui ont réfléchi là-dessus, depuis la révolution agricole, consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Pour produire un kilo d'énergie, il faut plus d'un kilo en pétrole, pour produire les intrants, etc. Donc évidemment, l'agriculture biologique a de quoi grandir.
Moi, je crois qu'il y a un chiffre qui est simple. Joël a dit que actuellement, la biomasse qui pousse dans le monde entier, c'est combien tu as dit 180. On va là-bas.
Ah oui, parce que moi, 100... je ne vais pas rester là toute seule.
Si tu nous invites, va revenir. Tiens, je me mets à côté de toi.
Ah oui.
Oui. Je vais essayer de répondre quelque chose par rapport à ce que vous dites. La biomasse aujourd'hui, qui vient essentiellement de l'agriculture, 190 milliards de tonnes. Compte tenu du fait que la biomasse, c'est en gros un atome de carbone pour un atome d'oxygène, ça veut dire que c'est à peu près 90 milliards de tonnes équivalent pétrole. Aujourd'hui, dans le monde, on consomme 23 milliards à peu près 20 milliards de tonnes équivalent pétrole. En comptant l'électricité, etc. C'est-à-dire que la biomasse, chaque année, représente plus d'énergie, 4 à 5 fois plus d'énergie que le pétrole consommé. Donc votre raisonnement, quelque part, ne peut pas tenir. C'est un raisonnement qui est quelque part, sur certains cas, c'est vrai qu'il y a eu des agrocarburants qui ont été produits où le bénéfice environnemental n'était pas du tout évident. C'était le cas de l'éthanol à partir de maïs. C'était le cas de l'éthanol à partir de blé. Aujourd'hui, quand on fait des carburants à partir de déchets, c'est une deuxième vie qu'on donne à un produit. Et à ce moment-là, les analyses de cycle de vie vous montrent que vous avez un intérêt important.
Il faut bien consommer de l'énergie, dépenser de l'énergie pour transformer cette biomasse.
Pour produire... je vais prendre un exemple. Je cultive des champs, je fais pousser une biomasse, je la transforme en un carburant. Vous me dites que le carburant, il a coûté plus cher pour être élaboré que je ne récupérerais d'énergie en le brûlant. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Oui, mais maintenant qu'on utilise les déchets, quel est le rapport entre l'énergie...
C'est très faible. C'est très faible. Sur l'énergie, c'est peut-être 10% du procédé par rapport à ce que vous récupérez. Si vous considérez que le carbone a déjà eu une première vie et que dans son analyse de cycle de vie, vous ne le comptez pas, eh bien vous avez une récupération qui est très importante. Les analyses de cycle de vie, dans ces cas de carburant de troisième génération, puisque c'est par rapport à un déchet, c'est remarquablement intéressant. Alors que les premières générations... c'est vrai que les carburants éthanol dont je vous parlais tout à l'heure, c'était très, 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 très douteux. L'avantage environnemental était douteux. Mais il y avait un avantage pour d'autres. C'était un avantage économique pour certains, je pense.
Attends, j'apporte un... Juste un complément pour répondre à votre question, là, parce que j'ai pris les chiffres avant de venir. En France, la consommation d'énergie actuelle, c'est 156 millions de tonnes par an.
Ouais, c'est ça. Hein? Avec l'électricité.
Tout, ouais. Tout compris. L'agriculture n'en consomme que 4 millions de tonnes. Donc on ne peut pas dire que l'agriculture soit une grosse consommatrice d'énergie. Le plus gros consommateur d'énergie en France, c'est le résidentiel et le tertiaire, c'est 44%, 70 millions de tonnes. Et les transports, 50 millions de tonnes, 32%. L'industrie, c'est 33 millions de tonnes, c'est 20%. Et l'agriculture, là-dedans, c'est 4 millions de tonnes. Même pas 3%. Donc le gros consommateur d'énergie en France, c'est le résidentiel et le tertiaire. Et le transport. Les deux, ça vous fait 75% de consommation d'énergie.
Moi, j'avais une question par rapport à l'usine de Chalandray qui a été évoquée. Parce que donc, je suis paysan à l'est de la Vienne et tous mes voisins cultivent du colza pour l'usine de Chalandray, donc c'est quand même assez éloigné. Et puis, ça a aussi un impact sur les rotations des cultures, parce que la coopérative a dit à tout le monde, faut faire du colza. Donc, tout le monde ne fait plus que du blé et du colza. Et donc, utilise de plus en plus d'intrants. Et le colza, il faut savoir que c'est une culture qui reste longtemps en place, où il y a pas mal de traitements qui sont réalisés et beaucoup d'azote chimique. Donc, moi, par rapport à l'usine de Charles-André, je voudrais savoir quel est le rapport, justement, de, est-ce que vous connaissez le rapport de l'énergie produite et puis l'énergie consommée, comme la question qui a été posée. Quand on produit un litre de diester, combien on a consommé d'équivalent pétrole?
Bon, moi, je vous dirais que le rendement environnemental, mais il ne faut pas prendre que l'énergie. Hein. Vous prenez que l'énergie, vous avez tort. C'est tous les gaz à effet de serre qu'il faut prendre. Hein. C'est le protoxyde d'azote qui est relargué par les engrais qu'il faut utiliser. C'est les traitements, etc. Il y a eu des évaluations qui ont été faites par l'ADEME. Alors, vous savez qu'il y a eu une première évaluation qui avait été très optimiste. Hein, que c'était dans les années 92-93. L'ADEME avait sous-évalué le coût environnemental de ces carburants de première génération. Mais je crois que maintenant est sorti quelque chose qui est beaucoup moins critiquable et on récupère à peu près 50%. On a un bénéfice de 50%. C'est-à-dire pour deux atomes de carbone ou un atome de carbone récupéré. Non, pour un atome de carbone consommé, on en récupère deux. Donc on a à peu près 50%. Et sur l'éthanol, c'est à peu près zéro.
Sauf au Brésil,
mais chez nous.
Moi, je vais rester un peu sur les mêmes questions. Si on revient un peu sur la production d'éthanol à partir de blé ou de betterave, est-ce que même quand on a lancé en fait ces productions, forcément pour produire cet éthanol, on a besoin de production de blé ou de betterave qui sont produits avec une approche vraiment fort intensive, hein, donc avec engrais azotés, produits fin de traitement, passage de tracteur pour mettre ce traitement. Finalement, est-ce qu'on ne tourne pas un peu en rond parce qu'on a besoin d'énormément de produits issus aussi de l'industrie du pétrole, quoi, quelque part. Et est-ce qu'aujourd'hui, on continue quand même, moi j'ai une petite vision, je passe souvent peut-être près d'une unité que vous connaissez à Aurigny-Sainte-Benoite, on produit une grosse unité de production d'éthanol, j'ai l'impression qu'on continue à investir et à produire toujours cet éthanol quelque part de plus en plus. Hein. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a toujours des investissements dans ces agrocarburants, à partir de betteraves, de blé?
Écoutez, la rentabilité d'une unité de production éthanol première génération, celle qui est faite à partir du blé ou du maïs, n'est rentable que si les céréales considérées se vendent à peu près 100 euros le quintal. Aujourd'hui, ces céréales, le blé et maïs, sont à peu près à 200 euros. Donc, il n'y a plus de rentabilité. Alors, je ne sais pas ce qui est utilisé. C'est quelque chose qui me surprend. Sur l'unité de La Rochelle dont je vous parlais, elle a été fermée dans son objectif de produire du biodiesel uniquement parce que le colza, aujourd'hui, est à 500 euros la tonne. Et que la rentabilité n'apparaît qu'à 250 euros la tonne. Et vous savez que l'État faisait des exonérations de TIPP pour ces biocarburants. Maintenant, c'est en train de disparaître parce que, il est reconnu que cette génération-là doit disparaître. Alors, sur l'éthanol, viendront en substitution les procédés comme je vous ai présenté, qu'on a mis au point à Valago, c'est-à-dire on va prendre des déchets, on va faire du sucre, et on va faire de l'éthanol. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura une rentabilité. Mais aujourd'hui, alors je ne sais pas, ça tourne peut-être au ralenti, ça tourne peut-être, je ne sais pas comment. Moi, je sais qu'il y a des unités qui font encore du biodiesel, qui font venir des huiles de je ne sais où dans le monde.
Parce que moi, je suis originaire de Picardie, hein, et dans un rayon de 80 à 100 km, il y a d'autres sucreries à côté, d'autres coopératives. Et dans la presse, on peut y lire que... dans la campagne betteravière, pour faire tourner ces sucreries. Donc, finalement, pour faire tourner l'outil de production, on importe de la betterave qui vient au plus près de Belgique, d'Allemagne, parfois de Pologne, qui sont traitées à Reims ou à
Soissons. Tout à fait.
Donc, quelque part, dans la logique, amener des camions de betterave,
Vous avez bien vu, il y a un petit bateau où il y a un marin pêcheur qui est décédé. Là, il y a, en réalité, c'était un, on disait que c'était un chimiquier, mais enfin, c'était un bateau qui transportait de l'huile de tournesol et qui partait dans une unité de biocarburant du nord de la France. C'est des trucs. Alors là, c'est, les économistes seraient utiles. Je comprends pas comment. Je comprends pas comment de l'huile d'éthane, de l'huile de tournesol. De l'huile de tournesol qui vient de je ne sais quel pays par bateau, que vous avez vu tous à la télé, ce bateau arrive moins cher en France que l'huile de tournesol qui est produite sur notre territoire. Il y a des choses incompréhensibles.
Ah bah,
alors, comment vous expliquez ça, ma chère collègue?
Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses à des choses que moi-même, je trouve pas ça normal, mais pendant longtemps, on sait très bien que le prix n'a pas tenu compte de la totalité des coûts, surtout ceux-là. C'est-à-dire, c'était le coût privé. On dit que le prix en économie est établi au coût marginal privé. C'est comme ça. Alors, ça veut dire quoi quand même? Parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tout simplement, l'autre partie qui n'était pas prise en compte, qui n'a pas été prise en compte dans le coût, et dans le prix, et qui encore, même encore aujourd'hui, il ne l'est pas, en totalité, ça veut dire que c'était tout simplement la collectivité, soit les victimes, ou la collectivité qui paye. Quoi. C'est le principe collectivité payeur et victime payeur. Malheureusement, alors là, je ne peux pas y répondre toute seule. C'est-à-dire qu'on était nombreux, parce que c'est un système, c'est une civilisation. Donc c'est aussi le système techno-scientifique, si on veut, qui a produit cette économie. Donc, j'allais dire, à part la prise de conscience qu'on a eue plus récemment, après, on a des éléments, évidemment, pour expliquer un peu ce qui s'est passé. On peut aller, par exemple, chez René Passé, et puis on dira, finalement, l'économie, ça a été une logique des choses mortes. Et donc, le calcul économique a enlevé tout ce qui était vivant, finalement. On peut aller, oui. Mais je veux dire, on ne peut pas, sauf à élaborer des systèmes comme on y réfléchit depuis quelques années, et à faire intégrer effectivement, mais c'est vrai pour l'huile de tournesol, mais c'est vrai aussi pour les fraises qu'on faisait venir. Et c'est vrai que ça surprend de plus en plus. La prise de conscience, quand même, elle est aussi au niveau des consommateurs. On est les premiers maintenant à être surpris quand on fait ses courses et qu'on voit qu'un objet made in China, quand on regarde l'objet et qu'on voit le prix, des fois on se dit c'est pas possible, ça ne paye même pas la matière. Donc si en plus on l'a fait venir de Chine, donc effectivement on est encore dans cette économie-là. On y est encore pleinement. Hein. Donc les transformations sont encore, les grandes transformations sont encore à faire. Alors par contre, il faut se méfier quand même à côté de ça, de l'idée de mettre un prix sur tout. Hein. Parce qu'on est encore dans la logique économique. C'est la marchandisation après de tout. Donc le problème est quand même assez compliqué.
Je voudrais apporter juste quelques petites précisions sur les choses que j'ai entendues, et puis sur le débat qui est en cours. Quand l'unité de La Rochelle a changé d'orientation, moi j'étais très heureux. J'étais très heureux parce que moi mon métier c'est de produire des aliments, et à chaque fois qu'une terre capable de produire des aliments pour nourrir le monde, c'est quelque chose qui me déprime. Alors en France on perd l'équivalent d'un département en terre agricole. Donc c'est grave. Donc dédier des terres pour produire des agrocarburants, pour moi c'était quelque chose de grave. Mais je suis très heureux d'avoir vu que l'idée actuelle n'est pas d'utiliser des ressources produites, mais de récupérer tout ce que l'on a produit. Et à partir de là, ça laisse un vrai espoir. L'idée, évidemment, je crois que la nature, rien ne se perd. Hein. Donc, si on arrive à tout récupérer pour le réutiliser à son maximum, c'est là les enjeux. Et l'idée de récupérer l'atome de carbone, du carbone autour de nous, c'est peut-être le rêve.
Comment est organisée, Annel, la récupération des
déchets
de bois, de
tissus ? Alors là, c'est une unité pilote qui démarre, donc elle fait actuellement très peu de production. Mais en réalité, il n'y aura pas une unité, une grosse unité AMEL. Il y aura à peu près 120 000 tonnes d'éthanol produites dans la région sur 4 à 5 unités qui seront dispersées dans toute la région. Avec, certains coins, ça va dépendre des gisements. Par exemple, en Charente, il y a d'énormes gisements de traverses de chemin de fer. Parce que c'est à peu près dans ce département que toutes les traverses traitées de créosoté, etc., sont stockées. Voilà, c'est. Donc ça dépend totalement. On va aller sur aussi des algues d'échouage. On va aller sur les jussies qui poussent dans le marais Poitevin. On va aller sur et donc il y aura une unité qu'il faudra mettre pas très loin. Ce sont des unités. C'est un procédé qui est ce qu'on appelle des procédés batch, c'est-à-dire c'est un réacteur. C'est pas du continu. C'est-à-dire que il y a une première unité qui va défibrer tout ça, et puis une deuxième, vous allez mettre ça comme dans une cocotte minute où vous allez faire travailler des enzymes, et puis ensuite, etc. Et donc, si vous avez plus de gisements, bah, vous mettez deux lignes en parallèle. Si vous avez encore plus de gisements, vous mettez trois lignes en parallèle. Mais il y a une première unité qui doit en réalité être double, parce qu'il faut que les machines soient doubles pour pas que l'unité soit complètement arrêtée si une des machines tombait en panne. Et l'unité élémentaire, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 tonnes. Et donc, il y aura un certain nombre d'unités dans la région allant. Les unités seront mises à côté des gisements de matières premières.
Je crois que il a presque tout dit, mais je crois que l'idée générale de développement d'une chimie à partir de renouvelables et des déchets, c'est de créer des petites unités dispersées sur le territoire. Ce n'est pas des grosses unités comme ce que je vous ai cité concernant les biocarburants A7 qui fait 200 000 tonnes. Ça a été la première, je crois que ça sera la dernière en France. Parce que ce n'est pas par hasard qu'elle a été faite à 7. Je rejoins le débat précédemment. Si vous remarquez la disposition des unités, des grosses unités en France, elles sont sur des sites portuaires, à l'exception de celle de Chalandray, et peut-être celle d'ARD. Toutes les autres sont en site portuaire. Bon, ça veut dire que les concepteurs et les financiers ont pensé à l'approvisionnement hors Europe. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. L'approvisionnement en graines hors Europe, ça date ce que disait Jacques Barbier, depuis la politique, le changement de la PAC. Donc là, on s'oriente plutôt vers des petites unités maillant le territoire. D'ailleurs, ça fait des emplois de proximité qui manquent terriblement dans notre État et dans nos régions. Au lieu d'avoir un 200 000 tonnes pour faire tourner une unité de... Bon, prenons celle de Chalandray qui fait 60 000 tonnes. On fait tourner
150 000 tonnes de graines. Quand même.
150 000 tonnes de graines, 60. Oui, si on regarde l'unité elle-même, elle tourne avec 20 ou 30 personnes.
Ouais.
Donc ça crée pas beaucoup d'emplois et c'est pas d'une rentabilité extraordinaire. Par contre, si on fait des unités de d'agro-matériaux, pour reprendre la terminologie appropriée, et d'agro-produits, on va créer de la valeur ajoutée, on va créer des petites unités et on va créer de l'emploi. Je crois que c'est la démarche qu'il faut.
Je crois que ça doit être une conclusion ce soir. Le gisement, si on parle du végétal, il est très faible. Et donc, ce qu'il faut, si on veut faire vraiment de la croissance verte, il faut aller le plus loin possible dans la transformation, dans la valeur ajoutée, par plusieurs. Vous voyez, il ne faut pas faire un produit d'usage banal, quoi, qui n'aura pas subi beaucoup de transformations, qui n'aura pas été dans son élaboration, demandé beaucoup de conception. C'est ça qui est important, quoi. C'est vrai que ces unités de carburant de première génération, tu l'as dit, demandaient pour ainsi dire pas de personnel, quoi. C'était en trituré. Comment ? L'unité du Vigan, elle va démarrer dans à peu près 6 mois. Mais c'est, il y a déjà sur le site, il y a déjà beaucoup de personnel qui s'occupe de tout le site d'enfouissement de déchets, etc. Et donc, vous savez, c'est pas beaucoup de travail de cultiver ces algues. Hein. Il y a juste la récolte et l'ensemencement. Il faut à peu près sur un bassin, c'est 3 ou 4 jours pour que les algues soient arrivées à maturité. Donc on fait un filtre, on passe sur un filtre presse, on écrase tout ça de façon à ce que ce soit séché le plus possible, et puis ça part dans l'unité qui va faire l'éthanol. Mais c'est pas énormément de personnel non plus. Mais vous savez, il y a deux choses. Il y a où cette chimie verte, qui est une chimie fine à haute valeur ajoutée, qui la demande du personnel, etc. C'est une chimie de spécialité. Mais sur les carburants, il ne faut pas se figurer que si on veut être à un prix acceptable pour le consommateur, il ne faut pas se dire on va essayer d'automatiser le plus possible, etc.
Pour les lisiers.
Oui.
Donc ces gens qui font pousser les algues vertes, on n'a pas songé à les utiliser de cette façon-là.
Ben, c'est ce que je vous disais, les algues d'échouage qu'on va utiliser.
Et en Bretagne,
ah ben les Bretons, ben, non, il y a, non, il y a, bon. Ces algues, la première idée, et c'est ce que j'avais pensé aussi, c'est d'essayer de les mettre dans des unités de méthanisation. En réalité, le problème des algues, c'est qu'elles sont salées. Et faire des organismes vivants qui feraient la fermentation pour aller vers la méthanisation, eh bien, en réalité, ces organismes vivants ne supportent pas. Alors, et donc... Oui, pardon. Non, je vous en prie, non, non.
Alors, en amont, on ne peut pas utiliser les lisiers pour...
Si.
Ah, bah...
On attend que ces lisiers favorisent le développement.
Ah, bah là ça, il faut demander ça. Là, vous êtes en train de...
Oui.
Ah oui, vous croyez qu'il n'y a que les lisiers qui font ça? Vous croyez que c'est à cause des lisiers?
Essentiellement les lisiers de porc.
Oui, il semble, oui. À mon avis, je peux vous dire qu'en Bretagne, les lisiers de porc, on les étend pas. Oui, allez, je vous en prie, monsieur.
Mais la méthanisation n'a aucun impact sur la quantité d'azote. Il y a autant de quantité d'azote quand on le met dans le fermenteur qu'on en retrouve.
Oui, mais quand ça sort du fermenteur, on sait où il est l'azote. Tout à fait,
oui,
tout à fait. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces algues? On ne sait pas quoi faire. Donc, une solution, ça peut être ou de méthaniser. L'autre solution, c'est le procédé que je vous indiquais, qu'on va faire. Mais c'est sûr qu'on retrouvera toujours l'azote. Mais l'azote, si on sait domestiquer l'azote, et si à notre collègue, là, on lui donne de l'azote qui vient de... D'ailleurs, il en utilise, hein. Il dit « je fais pousser des légumineuses, etc. Ben, » en réalité, il est bien obligé d'en mettre de l'azote. Hein. La culture bio sans rien, c'est le Sahara, il n'y a rien. Hein. Bon, donc il faut quand même... Nos grands-parents faisaient de la culture bio. Non, mais c'est vrai. Il faut quand même de l'azote, il faut quand même de l'eau, il faut quand même...
Oui.
Non, mais...
Je voudrais répondre à monsieur, en fait. Une fois que le lisier a fermenté, on peut l'extraire en granulé sec, alors qu'un lisier, on ne peut pas le transporter. On ne peut pas transporter des camions de lisier de Bretagne à la Beauce. Par contre, en granulé sec, une fois que c'est digéré, c'est plus transportable. Je disais qu'on peut cultiver sans apporter de l'azote. Les légumineuses prennent l'azote de l'air. Hein,
ça. Je sais bien, c'est ça. Mais c'est pas,
en bio, oui, mais très peu, et on minimise.
Oui, tout à fait.
Voilà. Moi, une année sur trois, je tourne avec zéro apport. Moi, j'ai un petit peu d'élevage et je n'apporte rien. Non, moi, j'ai un petit peu d'élevage. Je suis en autosuffisance, sauf une année sur trois, éventuellement. Voilà. Oui, mon fumier, je le remets sur mes terres. Oui, bien sûr.
Oui.
Excusez-moi. J'avais une question pour M. Surien, en l'occurrence, parce que vous montriez tout à l'heure, les chiffres au niveau des conversions de l'agriculture traditionnelle en agriculture biologique. Donc c'est très bien, mais est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez une idée si les gens qui sont convertis, ils l'ont fait idéologiquement, parce que pour eux, le bio, c'est bien, et tout ce qui s'ensuit, ou plus pour suivre une certaine mode économique, de dire que voilà, le bio, c'est la mode, ça se vend bien, ça se vend plus cher, donc on va aller faire du bio pour gagner plus, qui, voilà. Et voilà, c'était juste ma question.
Ouais. Bon, c'est très simple. En 2000-2001, je crois, il y a eu un système qui s'est mis en place, c'était les CTE. C'était des contrats territoriaux.
Territorialité, je crois.
Ouais, enfin, bon. Qui a donné une prime importante pour convertir sa terre. Voilà. À cette époque-là, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui se sont mis au bio juste pour avoir ce pactole que représentait cette prime. En général, ces gens-là se sont déconvertis au bout du contrat qui durait 5 ans. Ils sont retournés en traditionnel. Sinon, les gens qui... en fait, il faut quand même avoir une certaine idéologie, une certaine... moi, je ne veux pas dire de... Non, il faut ouais.
il fallait le dire.
Non, il faut avoir vraiment conscience de la crise environnementale, de la modification de nos territoires et l'envie d'avoir un mode d'agriculture que l'on puisse reproduire pendant 10, 15, 20, 100, 1000 ans. Comme ça, voilà. Il y a derrière tout cela. Voilà.
Mais pour continuer sur cette mode du bio, est-ce que vous ne pensez pas, parce que par exemple, on voit que les grandes chaînes de supermarchés se mettent au bio, que même McDo se met au bio. Personnellement, je ne pense pas que ce soit pour des vertus idéologiques qu'ils ont fait ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que toute cette grosse mode du bio va peut-être à long terme pouvoir le desservir s'il y a à la limite des gens qui veulent faire plus d'argent, ils vont dire on va faire pression pour que les qu'il y ait des charges soient moins restrictives, pouvoir faire du bio plus facilement et que dans peut-être à long terme, dans 20 ou 30 ans, le bio ça veut plus rien dire.
Je ne sais pas si dans 30 ans, le bio ne voudra plus rien dire, mais il est vrai que de toute façon, il y aura toujours des entreprises pour essayer de gagner le plus d'argent possible. C'est vrai. Bon, ça, moi, je ne peux pas l'empêcher. Je sais que syndicalement, il y a un courant fort en France qui essaie de veiller à ce que le cahier des charges reste un peu ce qu'il est, quoi, en fait. Ce cahier des charges a été modifié, il est devenu européen. Ça a été une vraie bataille, une vraie discussion. Là, ça me semble verrouillé quand même pour une bonne décennie. Je suis à peu près tranquille sur 10 ans. Mais après, c'est vrai, je ne suis pas garant.
Oui, j'aurais voulu revenir à la chimie verte. Et puis, d'après ce que j'ai compris, la chimie verte, c'est une chimie qui est une chimie qui part d'éléments renouvelables et qui s'oppose à une autre chimie qui est fossile. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans quelle mesure la chimie verte peut remplacer l'autre chimie, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut la faire totalement disparaître ou est-ce qu'il y a un certain nombre de produits qui ne peuvent pas être produits de cette façon-là, qui ne peuvent être produits qu'à partir d'éléments fossiles, non renouvelables, voilà.
Là, bon, c'est assez facile. Mais j'ai été obligé d'aller vite sur les quantités de matière pour l'exposer. La chimie verte à partir de renouvelables, quelle que soit la renouvelable, ne pourra pas remplacer actuellement toute la production de la chimie industrielle, en particulier celle des polymères. Les unités de production des grands polymères que vous avez tout autour de vous quand vous regardez, c'est des centaines de milliers de tonnes par an, une unité. Et actuellement, on n'a pas... de localisation d'une production de carbone renouvelable suffisante pour alimenter une unité. Donc on pourra, c'est ce que fait par exemple, ce qu'a fait récemment Arkema, pour faire de la pub pour Arkema, on pourra remplacer par exemple un approvisionnement de carbone fossile propylène par du glycérol, mais que partiel, parce que l'unité de fabrication de polymère type acrylique que vous avez partout autour de vous, c'est entre 200 et 500 000 tonnes en une unité. La production française de glycérol est de 200 000 tonnes en. Donc vous voyez la limite. Et je ne pense pas qu'elle augmente, parce que la production française de glycérol, elle dépend de la production d'ester carburant. Et la production d'ester carburant est de 2 millions de tonnes, et c'est 10% de la production de carburant. Donc on a une production de glycérol de 200 000 tonnes disséminée sur tout le territoire. Donc il faudrait commencer par concentrer tout le glycérol produit sur le territoire pour alimenter une unité rentable de fabrication de polymères acryliques. Et donc, on peut faire un ajout, on peut faire un approvisionnement partiel, mais on ne fera pas une unité. Donc, pour les grands intermédiaires, comme pour les carburants, on peut faire un remplacement partiel du carbone fossile par du carbone renouvelable, mais on ne pourra pas faire une unité totale. Par contre, pour des produits à plus haute valeur ajoutée, pour des produits qui sont fabriqués à faible tonnage, il y en a, soit pour l'alimentaire, soit pour la santé, choses comme ça, on peut envisager des filières qui soient totalement renouvelables et qui soient non seulement totalement renouvelables, mais qui soient également sans OGM. Toute l'industrie de la cosmétique actuellement cherche, pour des raisons diverses et variées, qui sont à la fois financières, de communication et d'utilité, à remplacer le carbone fossile par du renouvelable tracé, c'est-à-dire non OGM. Et là, on peut avoir des filières complètes à partir du renouvelable parce qu'il y a de la valeur ajoutée et puis parce que les tonnages sont compatibles. Parce que pour faire des cosmétiques, on n'a pas besoin de centaines de milliers de tonnes. Quand on a fait un réacteur de ne serait-ce que de 1000 kilos, on fait déjà pas mal de tubes. Et bon, ça, je pense que ça doit répondre à votre question. Ouais. On ne pourra pas remplacer le carbone fossile pour toute la chimie, mais c'est le domaine où on pourra envisager de remplacer une certaine partie, 10-20%. Les chimistes, l'industrie chimique va jusqu'à 40%, c'est l'objectif. Bon, disons que si on commençait par déjà, je crois qu'actuellement on doit être à 5% à peine. Si on allait déjà à 10-20% dans les 2020, on aurait déjà fait un grand pas.
On n'a pas répondu à toute la question là. Non, oui, possible. Parce que monsieur disait, est-ce que, admettons qu'on ait le carbone, oui. Je peux vous certifier que les chimistes sont totalement capables de passer du pétrole. Là.
Tout à fait.
L'empêchement, il est économique ?
Non. Il n'est pas technique. Ça, c'est sûr que on est totalement... J'ai essayé de le dire, je l'ai peut-être dit trop vite, mais tous les produits qu'on connaît aujourd'hui existaient à peu près il y a une centaine d'années et ils venaient pas du pétrole. Et donc, les chimistes doivent se remettre à cette fameuse carbochimie dont je vous parlais. Il y a eu un moment, il y avait que le végétal qui donnait du carbone pour faire de la chimie. Ensuite, il y a eu la houille, où on a fait... Alors, ça, c'était vraiment la carbochimie, c'est-à-dire on refaisait toute la chimie à partir du carbone charbon. Et puis ensuite est arrivé le pétrole. Et puis, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai été chimiste formé... à l'époque où les compagnies pétrolières tenaient le haut du pavé, inondaient de contrats les laboratoires de recherche publique, et ainsi, à peu près toute cette chimie, carbochimie dont je vous parlais, a disparu, s'est oubliée, quoi. On savait tous, les chimistes de cette époque-là ne savaient activer que deux types de liaisons, c'était la liaison carbone-carbone et la liaison carbone-hydrogène, qui sont les deux liaisons du pétrole. Et alors, à partir de ça, on faisait n'importe quoi. On faisait de l'éthylène, et à partir, je ne sais pas si je vous donnais l'exemple, à partir de l'éthylène, par hydratation, on faisait de l'éthanol, alors que depuis Bacchus, l'éthanol, on faisait à partir des jus sucrés. C'était quand même beaucoup plus sympathique. Hein. Et bien là, non, à partir de pétrole, on faisait de l'éthanol. On faisait de l'acide acétique, alors qu'on sait très bien comment l'acide acétique, mycoderma acétie, etc., nous produit de l'éthanol à partir du vinaigre à partir d'alcool. Eh bien, on faisait de l'acide acétique. On faisait des molécules des anhydrides maléiques à partir du pétrole, alors que les composés furaniques sont capables et qui sont dans le maïs, etc., sont tout à fait capables de faire ça. Non, la chimie, il ne faut pas s'inquiéter, c'est le gisement. Le gisement, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'à terme, je suis sûr que ce que l'on dit aujourd'hui, c'est ce qui circule en disant on ne pourra pas tout faire, etc. Mais à terme, c'est vrai que dans nos déchets, on peut se dire il y a peut-être tout le carbone dont on a besoin. Maintenant, il faut aller le chercher. Mais il faut le chercher, ça veut dire que c'est de l'investissement. Je vais vous citer quelque chose. Les stations d'épuration des eaux. On les envoie, vous les avez tous vus, c'est des stations aérobies. C'est-à-dire qu'on envoie toutes les matières organiques qu'il peut y avoir dans un égout. Hein, on imagine même le pire. Mais toute cette matière-là, c'est du carbone. Quand ça vient d'animaux, on va mettre ça dans une unité de méthanisation. Comment ça se fait que nos stations d'épuration ne sont pas des stations anaérobies et qu'on peut récupérer tout le méthane? Vous nous donnez du méthane, ou à Joël ou à moi, on vous fait tout ce que vous voulez en chimie. On redémarre à partir de ça. Eh bien, vous imaginez combien chacun d'entre nous paye à la nature de carbone. Je ne veux pas parler que de ça, mais paye à la nature tous les jours. Vous calculez combien ça fait de carbone, et ben vous voyez qu'au bout de, d'une année, une ville comme Poitiers, si on transformait ce carbone-là en, en méthane, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'on a pris ses habitudes, enfin, on a fait les investissements nécessaires. Si on va voir le maire de Poitiers en disant, bon, il faut transformer toute la steppe qui a été créée il y a 5 ans, 4-5 ans que ça a été changé, on va refaire maintenant un procédé complètement anaérobie, c'est sûr qu'on ne trouverait pas l'investissement nécessaire.
Ce qui est dommage, c'est que la méthanisation, ça fait quand même plus de 4-5 ans qu'on la connaît.
Et ça fait longtemps.
Ça fait plus que ça.
Oui, tout à fait. Bah, oui, tout à fait.
La méthanisation, bon, pour rebondir sur cette chose-là, la méthanisation, il n'y a qu'en France qu'elle n'est pas appliquée.
Ah oui, tout à fait.
Si,
ouais.
si on va dans les pays nordiques, à commencer par la Hollande, il n'y a pas une unité d'élevage en Hollande qui n'a pas une unité de méthanisation. Je n'ai pas encore compris et toujours pas compris pourquoi en Bretagne, on n'avait pas mis en place des unités de méthanisation.
Il y en a quand même. Chez les Bretons,
il y en a quelques-unes, mais bon, il n'y en a pas suffisamment.
Ouais.
Pour compléter ton propos, parce que bon... sur la chimie à partir du végétal. Bon, c'est vrai qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire à partir du pétrole, à partir du végétal. Il y a quand même, si on veut rester dans la compétition, si on veut avoir des procédés compétitifs parmi les plus complexes, il y a quand même des choses à travailler. Je vous en ai donné rapidement une sur les lignocelluloses. Et là, il y a un point grave, et je rebondis sur ce que disait Marie tout à l'heure sur les amis. Ces fameux appels à manifestation d'intérêt. Et comme je suis expert dans ce domaine-là, pour en parler, bon, on travaille quand même sur des projets qui sont de l'acquis. C'est-à-dire que ce n'est pas des projets innovants. Et ça m'inquiète un peu parce que les travaux qui sont proposés dans ces amis, qui sont d'ailleurs des projets lourds, parce qu'on ne peut pas y aller sans avoir un budget, sans avoir un projet supérieur à 2 millions d'euros. Sont basés sur des travaux qui ont déjà 10 ans. Hein? C'est-à-dire qu'on travaille, on expertise des travaux qui ont 10 ans. Par contre, on n'expertise rien sur les travaux d'aujourd'hui. Et là, effectivement, si on sait faire la chimie du renouvelable pour compenser un peu de carbone fossile, il faut aussi retrousser les manches pour voir ce qu'on pourra faire demain, de mieux, pour être plus compétitif, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent aussi dans le monde. Hein. Pour être plus compétitif. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que là, ces fameux amis, ces fameux grands investissements dont on nous rebat les oreilles, ils ne concernent que les projets anciens. Il n'y a pas d'argent pour le futur.
Peut-être un élément pour, qui peut compléter, pour en revenir concrètement à la question de savoir pourquoi finalement le passage n'a pas l'air de se faire j'allais dire presque automatiquement, même dans la mesure où techniquement, par exemple, on a les moyens, ou technologiquement, sur le plan économique quand même, il y a une variable importante, c'est que on n'a aucune raison, dans une entreprise, on n'a aucune raison à rendement égal à changer pour des matières plus chères.
C'est sûr.
Et donc... tant qu'on ne met pas en évidence la rentabilité à terme dans le changement de matière, de toute façon, il n'y a aucune raison qu'au niveau de l'entreprise, il y ait un changement. Hein, on l'a dit, c'est une question de prix. Ou alors, il faut que l'entreprise ait prévu un budget qui va venir compenser le différentiel de coût qui est induit par le recours à des produits de substitution par rapport aux produits pétroliers. Voilà. Mais ça, c'est une logique économique quotidienne. Quoi. C'est comme ça dans les entreprises. Donc c'est bien une affaire de sous quoi, aussi.
Oui.
Peut-être juste... je voudrais savoir comment l'industrie chimique réagit face à la chimie verte. Est-ce qu'elle essaie de mettre des obstacles par des actions lobbying pour... éviter une réglementation qui contrarierait ses intérêts. Est-ce qu'elle s'approprie? Est-ce qu'elle surfe sur la vague? Je pense à une entreprise qui se trouve pas très loin d'ici, c'est Novamex qui a pris pari à travers la marque l'arbre vert de faire des produits détergents donc à base de produits produits végétaux si j'ai bien suivi. Donc comment l'industrie chimique classique?
L'industrie elle va réagir par rapport à la demande du client. Or, actuellement, c'est vrai, tu prends Novamex, tu prends Léa Nature, tu prends toutes ces entreprises qui sont parties sur des produits respectueux de l'environnement, biosourcés, etc., répondent à une demande sociétale et donc sont très prospères aujourd'hui. Hein. Donc, l'industrie chimique, elle ne va pas s'arc-bouter. Les seuls qui peuvent s'arc-bouter, c'est ceux qui vendent du pétrole. Et ce sont ceux qui peuvent parfaitement dire, bah, de toute façon, les carburants, parce qu'ils étaient à peu près dans tous les programmes de recherche sur des carburants de substitution, mais ils y étaient pas pour favoriser les choses, pour être là, pour savoir ce qui se disait, pour essayer de freiner le plus possible, pour faire passer le message, de toute façon, il n'y aura pas assez de carbone, heureusement qu'on va attendre que... le pôle Nord, toute la glace fonde pour aller chercher en dessous, parce qu'on est sûr qu'en dessous, il y en a. Quoi. Donc, eux sont vraiment, ont vraiment un intérêt à continuer leur petit business. Mais l'industrie chimique, les chimistes, vraiment, et on le voyait avec, mais tu en parleras sans doute, au niveau de l'Union des industries chimiques, il y a un engagement par rapport à une démarche respectueuse de l'environnement, etc., qui est impressionnante. De toute façon, les gros problèmes actuellement de personnel, c'est plus dans l'industrie chimique. Hein, j'étais à l'unité de Rodia de La Rochelle il y a quelques jours. Le dernier accident ou la dernière intoxication date d'il y a 4 ou 5 ans et ils se vantent que... ils sont très respectueux de protocoles et de démarches très très. Je crois que c'est pas parce que je suis chimiste, mais c'est une industrie qui aujourd'hui est parfaitement louable dans sa démarche.
L'industrie chimique européenne tout entière et la française en particulier, encore plus la française qui a perdu beaucoup d'emplois, c'est totalement impliquée dans l'utilisation de carbone renouvelable et de la chimie verte au sens où je l'ai exposé. C'est toute la chimie verte. Ça, c'est vous pouvez regarder les engagements de la plateforme SUSCHEM, donc, qui veut dire en anglais Sustainable Chemistry, chimie durable. Vous trouvez les 8 principes qui sont exactement ceux, et ce sont les principes prioritaires affichés par l'industrie chimique. Donc, ils sont complètement apparus. Je vous ai dit tout à l'heure, l'industrie chimique voudrait aller jusqu'à 40% d'utilisation du renouvelable, tout compris, ce qui est énorme dans les 20-30 prochaines années, ce qui est énorme. Moi, je dis, s'ils arrivaient à 20%, ce serait déjà pas mal. Donc, il y a un engagement fort, y compris de la France, qui a perdu beaucoup d'emplois dans ce domaine. Mais les Allemands sont à la pointe là-dessus, les Hollandais, tous les pays nord-européens sont engagés très fortement et financièrement. Les grandes compagnies chimiques allemandes sont à fond dans ce domaine-là. Et c'est pas du pipeau. Il y a des finances derrière.
Il y a la science, il y a la technique, et puis il y a le politique. Hein. Donc, Ellul, qui a critiqué la société chrétienne, Ellul, maintenant, on parle de lui. Il est mort donc, il y a une dizaine d'années. Et puis, vous avez parlé d'exemple précis du fait entre... traiter par voie aérobie ou par voie anaérobie les déchets. Mmh. Hein, le problème s'est posé à Poitiers. J'avais quelqu'un responsable à Poitiers à l'époque. Donc, on a choisi la voie aérobie. Alors qu'à Lille, en même temps, donc il y a 12 ans, eh bien, les stations d'épuration ont été traitées de façon différente pour qu'on puisse récupérer le méthane pour alimenter les bus de l'agglomération.
Mmh, tout à fait.
Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait à Poitiers. Ça a été fait à Lille ou au Danemark, en Suède, et ça marche. Donc on a les connaissances techniques et scientifiques, mais après, pour les déchets, c'est les deux grands groupes mondiaux qui gèrent ça, et ils gèrent directement par leur intérêt. On est à une croisée des chemins. On a les connaissances scientifiques, techniques, on sait gérer, et en même temps, il y a des choix, et des choix qui sont différents entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et on sait ce que cela peut donner. Entre l'idéal, c'est de gérer le déchet pour en faire de l'énergie, donc du méthane, c'est l'idéal, que les chimistes connaissent bien. C'est l'intérêt de Valagro. Souvenez-vous de Valagro, j'étais conseiller régional en 92, quand Valagro était là et partait. Le directeur à l'époque de Valagro est parti, je crois, en Amérique latine. Il est parti un petit peu. parce qu'il était parti pour autre chose que, qu'une gestion technique, c'était une gestion, je dirais, financière des choses. Là.
C'était pas moi, c'est celui qui était avant moi.
Oui, donc, en 92,
c'était le président.
Monsieur Barbier n'était pas là. Donc ce soir-là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant à la tribune, où des gens nous parlent de technique et de science, et ne donnent pas l'application immédiate politique, mais on peut le comprendre. C'est plus une hypothèse fantaisiste, c'est une hypothèse, je dirais, scientifique de gestion de la société. On a les connaissances, et est-ce qu'on va mettre les moyens financiers pour gérer les effluents sur 30 ans ou 40 ans? On est parti à Poitiers, donc pour l'usine de traitement des eaux, sur 30 ans. C'est une aberration même. Hein? Bon, on aurait pu faire autre chose. Bon, mais c'est pas parti dans tous les sens. Je crois qu'on peut réfléchir. Et le thème de ce soir qui est abordé, qui est très bien d'actualité sur la chimie verte, on a les connaissances scientifiques pour non seulement gérer nos déchets, mais gérer un fonctionnement énergétique pour les générations futures. De façon simple, rationnelle, ça marche ailleurs, dans le robinet, on peut le faire. On part pas à l'aventure, on a la connaissance scientifique, on a la connaissance technique, et il est là pour venir au secours, on peut faire maintenant. Maintenant, il y a un choix. Il y a un choix politique. Alors, ce choix politique, est-ce qu'il doit être fait uniquement par les deux ou trois grands groupes mondiaux qui gèrent toute cette question-là, ou est-ce qu'on peut le faire de façon différente? Vous avez le mérite ici, dans le Casement de France, de poser le problème. Pour moi, il est déjà résolu, mais c'est autre chose. Mais le choix politique est là. Donc c'est pour saluer tout ce qui est fait dans la réflexion, de ce qui était apporté, de ce qui était dit clairement, qui est incontestable là, dans ce qui est pensé. Bon, il y a 20 ans, ça paraît, ce que vous avez dit aurait pu paraître utopique, c'est des farfelus, c'est des rigolos, il raconte n'importe quoi. Non seulement c'est pas farfelu, c'est pas rigolo, c'est pas n'importe quoi. Et quand on voit les enjeux économiques qui se posent et la problématique, on se dit pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Bon, ça se fera, je pense, j'espère.
Je crois que tu as parfaitement raison, mais je crois que c'est dans le contexte qu'il faut analyser aussi. Parce qu'on dit, alors tout à l'heure j'avais l'air de critiquer la municipalité de Poitiers à un moment donné, qui n'avait pas fait ce choix-là. Mais le choix ne se faisait pas ou se faisait difficilement. Tout à l'heure Joël a dit, pourquoi est-ce que la méthanisation ne s'est pas développée en France? Parce qu'en France, on a une société qui s'appelle Gaz de France. Dans tous les autres pays, la société, le Gaz de France de ces pays-là, autorisait la réinjection du biogaz, enfin du gaz, dans leur canalisation. Mais en France, c'était pas bien. Il ne fallait pas faire ça. La canalisation leur appartenait. Ils refusaient qu'on injecte. Or, qu'est-ce que vous voulez faire de biogaz sur une station d'épuration à 10 km de la ville de Poitiers, parce qu'il ne faut pas quand même la mettre trop près, si on ne sait pas quoi faire du biogaz? Et en été, alors en hiver, on se dit on peut chauffer, on va chauffer, etc. Mais faire de la chaleur, et donc en été, on en fait quoi? Donc la seule solution, c'est d'avoir l'autorisation de réinjecter. Eh bien, cette société Gaz de France s'est toujours opposée. Il n'y a jamais eu de pression. C'était à un haut niveau. Je pense que Gaz de France, je ne sais pas, l'État français a peut-être quelque chose à dire, on va exiger. Parce qu'en plus, notre gaz, il traverse l'Ukraine. Et de temps en temps, les Ukrainiens, ils nous ferment le robinet. Ils disent, tac, vous n'allez plus avoir de gaz cet hiver. Parce que nous, on a un problème avec les Russes qui sont un petit peu en amont. Et c'est leur gaz qu'on ne veut pas qu'ils traversent notre territoire. Donc, on est presque des otages par rapport au gaz, alors qu'on pourrait faire du gaz qui serait à nous, et au moins celui-là, on pourrait alimenter nos canalisations, mais Gaz de France s'y opposait, parce que c'était un monopole qu'il perdait, vous voyez. Les monopoles, c'est très important en France.
Et puis moi, un autre niveau, je pensais, au niveau social, on apprend aussi. Je pensais, par exemple, sur un territoire, quand on examine un projet d'écologie industrielle, mais on apprend à s'organiser socialement, et déjà, même sur le plan politique, ça change un petit peu les choses, parce que les collectivités voient leur rôle évoluer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles donnent un coup de main pour mettre les acteurs, les différents acteurs en présence, pour les réunir autour d'une table éventuellement, pour qu'on puisse, apprendre à se connaître et parler de son activité. Donc déjà tout ça, ça c'est, j'allais dire, bon, c'est un niveau micro-social, à ce moment-là ça concerne un territoire délimité, mais ça nécessite un apprentissage aussi, quoi.
Merci Daniel. Pour finir, juste avant de vous donner un rendez-vous, simplement vous faire une réflexion. On est en 2012, moi je dirige cette maison depuis 20 ans. Le débat qu'on a eu ce soir, il était impensable il y a encore moins de 10 ans. Il y a quelques jours, on était, Daniel Lomont était avec moi à l'invitation de Stéphane Hessel et d'Edgar Morin à une journée préparatoire de Rio plus 20. Et on a eu une intervention de quelqu'un qui va monter à la tribune à Rio dans quelques semaines, qui est ministre du patrimoine naturel de l'Équateur. Une dame qui parle 17 langues, elle a 30 ans. Et cette dame a dit, le développement durable se cassera la gueule avant 10 ans si le mot culture, si le mot éducation et si le mot transversalité ne viennent pas donner des éléments moteurs pour que les gens s'y retrouvent. Ce que vous avez fait ce soir tranquillement, sans problème, le débat qui a eu lieu, il montre qu'effectivement on est capable de créer de la transversalité. Il y a chimiste, spécialiste du R&D, même si c'est un ancien théoricien de la chimie, une économiste et puis... un agriculteur qui vient de l'université de Poitiers, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi. Simplement, c'est des choses qui étaient impensables dans ces maisons il y a encore une quinzaine d'années. Donc ça veut dire que c'est un acte culturel et donc politique sur lequel il faut qu'on travaille pour susciter justement ce genre de choses. Il faut que ça se dise. Parce qu'il y a comme ça qu'on avancera et qu'on accélérera le changement. Et puis le rendez-vous, c'est à partir du 24 avril. Il y a une exposition sur la chimie verte avec une quinzaine d'expériences concrètes sur des agro-matériaux issus du verre, biosourcés, etc. Il y a un lexique, il y a un certain nombre d'éléments très concrets sur une salle qui est à l'étage de 200 mètres carrés. Donc on vous invite tous à y venir grâce à Joël Barraud ici, Jacques Barbier et un certain nombre d'entreprises poitevines. on va mettre à disposition concrètement les produits de demain ou le début des produits de demain dans une société biosourcée, puisque c'est vers ça qu'on va. Hein, voilà, donc je voulais vous dire que non seulement on crée le débat, mais également on essaie de montrer de manière expérimentale, c'est à destination des jeunes et des moins jeunes, donc j'espère que vous viendrez nombreux. Merci.